Hello les amis, comment ça va? Je crois qu'on est mardi matin. Peut-être que j'arrête la musique moi. C'est arrêté là? Non, c'est pas arrêté. Ah, les réflexes sont pas ce qu'ils sont plus qu'ils étaient. Vous avez passé une bonne qu'est-ce qu'on peut dire le mardi? Une bonne nuit? Est-ce que vous avez bien dormi? Je vais bien, merci. Je serais bien resté dans mon lit ce matin, mais tous, diesel. Tous. Alors oui, la société nous demande autre chose. Hein. La société nous demande de nous lever pour faire des trucs. Mais on serait tous restés au lit ce matin, en vrai. Si on n'avait pas d'autres trucs à faire. Hein? Oui, on va pas se mentir non plus. J'étais si bien sous la couette, ouais. Enfin, sur la couette. Il fait chaud, là. Je dors plus sous, mais... Salut, Captain Oui. Merci, OM Man. Manate. Merci, Winster. J'attends que tu parles de Mr. Beats à PA et de Singapour à Kevin. Putain, j'ai pas les rêves de tout ça, moi. J'ai fait un rêve bizarre, mais j'ai bien dormi, sinon me dit Ketzak. Ça te raconte, ça? Tu nous racontes? Alors, il faut que je dise quoi sur Mr. Beats à PA et de Singapour à Kevin? Mr. Beats, premier youtubeur monde, oui. Ça, je vois le gars là, oui, qui fait des trucs là, les vidéos là. Où il y a l'histoire de. Parfois, il y a des histoires de sous là, tout ça, ouais. PA, il a fait la vidéo de Mr. Beast qui affronte 49 autres streamers. Ok. Et. Du coup, vous voulez que je. Vous voulez que je voulais que je lui en parle? C'est sorti il y a longtemps? C'est une grosse actu? C'est. PA, c'est Domingo. C'est le streamer Domingo Calias. Et la vidéo est topissime. Ça vient de sortir, peut-être? Il faut que tu lui dises qu'il a fait la vidéo. Ok. Moi, j'ai rêvé que j'ai acheté une maison hantée avec mon amoureuse. Faut pas regarder Conjuring le soir, c'est pas bien, j'adore. Ok. C'est énorme même. D'accord, ok. Ok, c'est énorme. Tac. Ok. Alors, moi, vous savez, je connais pas bien l'univers de YouTube, alors j'essaie de m'updater un peu. Donc, c'est énorme. Je peux dire ça, peut-être. PA. C'est énorme, ce que tu viens de faire. Ça comme ça? Bonjour tout le monde, content d'écouter les actus. J'ai plus le temps avec mon nouveau boulot. Je prépare mon déménagement pendant que mon bébé dort. Attends, ça bosse, ça déménage et ça s'occupe d'un bébé, Polichon? Tout ça? En même temps? Ok. Ouais. Tu peux demander pourquoi t'as pas été invité? MDR, me dit Josgo. Bah, peut-être parce que Mr. Beast, là, le monsieur dont vous parlez, il sait pas qui je suis, peut-être. Je pense. Putain, j'ai pas mis mon zizi! Ah, mais on le voit pas là! Dans le décor. Salut Captain Oui. Attendez, là on le voit là. Voilà. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Au festival MVP. Alors cette phrase est bizarre, hein, j'avais pas mis mon zizi, mais. Non, parce que après, je l'ai mis hier dans le stream. J'ai présenté ce cadeau qu'on m'a fait donc, au festival MVP, une viewuse. En audio, cette phrase est folle. Ah oui, alors j'explique pour ceux qui sont écoutant. Alors, donc, une viewuse, pour me faire rire, au festival MVP, m'a offert un zizi. Un zizi peluche. Voilà. Et donc, je l'ai mis dans les corps de stream, bien sûr. On est un peu con ici. Sauf qu'après, moi, dans l'après-midi, j'avais des Teams. Merci, Barbocu. Et en fait, un zizi anti-stress, voilà. C'est un zizi qu'il faut malaxer. Merci, Barbocu. Et donc, toi, tu tends le bâton pour te faire battre. Oh, bâton, non, il est pas si gros, hein. Ça va, on dirait pas un zizi? Ah si. Un zizi tatoué même. Ah si, quand même, si. Et donc, je le mets dans le décor hier, bien sûr. Voilà. Sauf qu'après, j'avais des Teams. L'après-midi, je fais des réunions sur des projets, tout ça. Et donc, avec des gens, des agences, des marques, tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais enlever le zizi. Parce que je me dis qu'en termes de... comment dire, de tu vois, de quand tu cherches à être sérieux là, tu sais, de ah merde, en termes de, tu vois, en termes de sérieux, en termes d'image, oui, en termes de professionnalisme, crédibilité. Merci Little Kimou, voilà. Wow. Faut assumer le zizi, c'est pas sale. Oui, mais de là à en mettre un dans le décor, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Faut assumer ton zizi, ça. Mais c'est pas le mien celui-là. Hein. C'est pas le mien. Hein. Et puis c'est encore une fois, faut pas mélanger le zizi et le travail. No zob in job, comme on dit parfois. Hein. Eh oui. Tiens, on va parler de mariage dans la revue de presse aujourd'hui. Le mariage qui protégerait du cancer. Tiens, je vous mets ça, je vous mets le sommaire. De fou, tout de fou, tout de fou. Sinon, tu le caches derrière un sommaire pour tes réunions? Non, du coup, je le mets là, devant moi. Sauf dans une certaine industrie. Ouais, forcément, ouais. Ouais. Oui, forcément, oui. L'audio hors contexte est ouf. Ah oui, tu mets... oui, c'est sûr, ouais. Tu as bonne mine. C'est parce que je mets de la crème. Ça, c'est mon secret de beauté, ça. Comment ça, le cancer est... le mariage étant un cancer, en... il y a un... je ne sais, il y a un modérateur qui vient de lancer un sondage qui veut le zizi tatoué. Waouh! Il y a Mumstone qui vient d'écrire le mariage étant un cancer en soi, on évite de cumuler comme ça. Waouh! Est-ce que l'info que Twitch est en péril est vraie? Je sais pas, Charlie, moi, ça fait 5 ans que je stream, ça fait 5 ans que je lis l'article annuel qui dit que stream, Twitch est en péril. Donc jusqu'ici, tout va bien. Non, en vrai, il y a de nouvelles choses. Enfin, je veux dire, il y a des vraies actus sur le sujet ou pas? On peut faire peindre son zizi. Je sais pas, je suis tatoué, je suis très tatoué, mais je suis pas. Là, non, je veux pas, j'ai pas prévu là. Comment? Oh, Pio, il se porte comme un. Pff, il vient de fêter ses 6 semaines. Alors, qui veut le zizi tatoué? J'avais pas vu les propositions. J'aime les zizi, 18%. J'aime les tatouages, 25%. Non, merci, 19%. Vraiment pas 14%. Je pars chez le tatoueur, 24%. Ok. Vous êtes vraiment une communauté de frappadingues. Pio va bien. Il vient de fêter ses 6 semaines, déjà. Son visage est en train de s'affiner, de changer. C'est un petit mec. Hein, il est quasiment plus grand que moi, déjà. Voilà. Ce matin, il voulait venir avec moi emmener les grands à l'école. Ouais, parce qu'il parle, il parle, il parle déjà. Il a commencé à écrire aussi. Donc il m'a dit, papa, c'est bon, je suis plus un bébé. Je veux que je veux emmener les grands à l'école. Et je lui dis, bah, attends, 6 semaines, tu sais pas marcher, donc voilà. Et là, il s'est mis à marcher. C'est-à-dire que il parle, il parle, il écrit, il marche. Incroyable. Ça a pas dû être long de rattraper ta taille, ben 6 semaines. Incroyable. Il lit les journaux? Oui, ben du coup je l'ai mis sur la revue de presse le matin. Le sondage est terminé sur le zizi. Il me dégraisse un peu les journaux quoi. Il lit bien donc. Il dit, tiens, ce que t'as vu dans le monde, papa, il y a un truc sur Trump là qui est pas inintéressant. Alors l'article a quelques petites imprécisions, mais tu devrais y jeter un œil. Voilà. C'est pratique d'avoir un bébé comme ça à la maison. Est-ce qu'il a regardé les replays de la commission? Non, non, bah non. Je lui ai proposé, mais il m'a dit j'ai pas que ça à foutre, que de regarder que de regarder tes conneries, il m'a dit. Ok. Sympa. Comment tu gères avec ta moitié la gestion des nuits du petit ange et ton entraînement à la Zilane? Bah c'est bien simple, je m'entraîne pas pour la Zilane. Pour l'instant, je suis pas, je suis, pour l'instant, je suis pas inscrit. As-tu vu la chronique de VDB sur Allonc, la commission? Quoi? VDB, un de mes humoristes préférés. Faut aimer, hein, c'est un humour particulier. VDB a fait un truc sur Allonc et on me dit rien? Voilà. On laisse tomber Trump, on a trouvé mieux. Oh, c'est pas vrai. Attendez, on arrête tout. Alors, c'était quand ça? vous êtes des...
Come on there, it's time.
Ok, je sais. Sur Nova, Nova, je viens de voir les audiences radio là. Les audiences de la radio là. Nova, les audiences ont explosé. Ils ont fait quasiment x2 Nova en une saison. C'est incroyable les audiences de Nova. Il faut dire que c'est une belle bande de déjantés, je les aime bien. Hein. Alors voyons. Il y a du son. Ok, je pense que c'est celle-là. Oui, alors Archange, cette blague que tu viens de faire dans le chat, je l'ai entendue, mais en CP, il y a 30 ans, quoi. Non, je dis n'importe quoi, il y a 30 ans, je n'étais pas en CP. je bossais déjà. Il y a longtemps, il y a 50 ans.
Il analyse les rapports de classe, mais toujours avec un air de dernier de la classe. Oh. C'est Thomas VDB.
Et oui. Bonjour tout le monde, merci. Alors moi cette semaine je me...
Alors Thomas VDB c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je l'ai connu il y a très longtemps quand un jour j'ai présenté une émission sur Canal Plus le midi pendant un an qui s'appelait l'édition spéciale et l'un des concepts... Ah salut Shinsfo, merci pour ton message. Et l'un des concepts c'était qu'il y a un humoriste, il y avait un humoriste tous les jours. Voilà. Qui venait faire une chronique et dans cette bande d'humoristes qui étaient pour la plupart géniaux. Certains vous les connaissez. Il y avait un certain Camille Combal, par exemple, un tout jeune, dont c'était une des premières télés qui venait faire un sketch. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait Chris Esquer et la revue de presse des journaux que personne ne lit. Il y avait qui ? Il y avait Camille Chamou aussi. Voilà, enfin, plein de gens. Et il y avait Thomas VDB. Voilà, et Thomas VDB, je l'adorais et c'est lui qu'on retrouve ici. Un passionné de musique rock, on rappelle.
Je suis intéressé aux vidéos de commission d'enquête. C'est un nouveau format de vidéo YouTube. C'est un peu comme LOL qui ressort, ou comme les vidéos de gens qui arrêtent des personnes dans la rue pour leur dire Saint-Nectaire ou Reblochon. Les gens sont là, Saint-Nectaire. Saint-Nectaire ou Emmental Saint-Nectaire. Et bon, dans les commissions d'enquête, ils peuvent pas dire à chaque fois Saint-Nectaire.
Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas VDB, Thomas VDB, c'est quelqu'un qui fait toujours un peu l'abruti, quoi, un peu le... Comme le disait le présentateur à l'instant, un peu le dernier de la classe, quoi. Donc il a ce phrasé un peu particulier où il fait toujours un peu le neuneu. Et il faut bien l'avoir en tête, c'est dans son ADN, quoi. Et le mec est brillantissime.
Sinon, il y a obstruction. Et donc, les commissions d'enquête, c'est un truc où, en fait, il y a un parlementaire du Sénat ou de l'Assemblée nationale, par exemple, il lit le journal et il lit un article sur Jean-Claude et il se dit, mais attends, il y a un truc chelou, là, sur Jean-Claude. Et là, il convoque Jean-Claude. Jean-Claude, il est obligé de venir. Il se fait cuisiner devant les caméras et après, ça fait des millions de vues sur Internet. Et donc, quand tu montes une commission d'enquête, en fait, tu te transformes un peu en proviseur. Sauf qu'en fait, le vrai nom qu'ils ont trouvé, c'est rapporteur. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le seul nom qui existe pour la personne encore plus détestable dans une école qu'un proviseur. Et après, le gars, il fait rien qu'à tout rapporter à la commission d'enquête. Et donc, Charles Alonque, il s'est dit, ok, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et il a lancé une énorme commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et je pense que c'est pas possible de trouver quelqu'un qui a plus la rage contre l'audiovisuel public de Charles Alonque. Je pense que c'est lui qui a le record. Je me dis, faites venir un huissier du Guinness Book à la commission d'enquête pour que l'autre, il ait vraiment, tu vois, il ait sa photo peut-être à côté du gars, tu sais, qui a une barbe d'abeille dans le Guinness Book. Je me dis, c'est ça. Et donc, la commission d'enquête de Charles Alonque, elle s'est terminée cette semaine après des mois et des mois. C'est presque une telenovela. Le truc, c'est... D'ailleurs, on sait que pour qu'une série, ça fonctionne, les scénaristes, ils savent tous qu'il faut du conflit entre les personnages. Ben là, il y avait du conflit. Et il y avait des guests de ouf. Il y avait Roselyne Bachelot, Mathieu Pigasse, Élise Lucet. Et ils jouent tous leur propre rôle.
Nagui.
Et le but de Charles Alonque, c'est de les mettre tous en défaut. Et c'est drôle parce que des fois, il n'y arrive pas. Et quand il n'y arrive pas, il fait un peu la tête du gars dans la pub. Tu sais qu'il fait... Je l'aurai, lui, un jour. Je l'aurai.
Non, précisément, il fait... quand il n'y arrive pas, c'est-à-dire une centaine de fois par audience, il fait un truc comme ça.
Je vous remercie pour votre réponse.
Et il passe à la question suivante.
Et il y a même un guest de Nagui un moment. Parce que Charles Lalonde, il dit qu'il a l'intuition que Nagui, c'est la personne qui s'est le plus enrichie sur le dos des Français dans l'audiovisuel public. Parce qu'il fonctionne à l'intuition, Charles Lalonde. Je pense que c'est peut-être la seule personne en France qui se réveille en sueur, en pleine nuit, en pensant au salaire de Laurent Romeshko. Je pense vraiment ça. Parce que c'est vrai que Nagui, apparemment, il prenait 2 500 € par émission de N'oubliez pas les paroles. Bon, c'est vrai, parce qu'il présentait aussi l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Et c'est vrai qu'avec un cachet pareil, on comprend pourquoi tout le monde veut prendre sa place, a priori. Mais c'est vrai qu'il se servait bien, Nagui. Mais bon, Charles Lalonde, il est tellement énervant à accuser tout le monde que moi, je regardais ça et du coup, j'avais presque envie de prendre la défense de Nagui. Je vois, attends quoi, 2 500 €, la meilleure de tournage, ça va? Franchement. Mais quelle joie d'être à Nova aujourd'hui et de plus se faire accuser de se gaver d'argent public. Parce que gaver, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent tout le temps quand les gens ils trouvent qu'il y a trop d'argent dans l'audiovisuel public. Ils sont là, mais ils se gavent d'argent public.
Tu me fais peur.
Ouais, bah, c'est fait pour. Parce que, du coup, en faisant des recherches pour cette chronique, je suis tombé sur des vidéos de gaveuses doigts. Et c'est un métier qui se perd, les gaveuses doigts. Et c'est vrai, dans les vidéos, ils sont là, c'est comme ça qu'on gave une oie et mettre de la bouffe dans le bec de l'oie. Et c'est vrai que c'est vraiment horrible. Et nous, c'est vrai qu'à France Inter, par exemple, le gavage, c'était moins. Il y a moins de gavage. C'était plus si nous mettaient 2 flocons d'avoine dans la gorge. Et à Nova, on est passé à 1 flocon d'avoine. Vraiment, on est plus dans une sorte de diète. Hein, vraiment. Je pense qu'avec nous, on pourrait produire du foie gras, mais extra light. Hein, vraiment, du foie sec. Hein. Bon, après, c'est vrai que Charles Lalonde, il a quand même un biais de droite. Quand même, comme personne, on a tous vu la vidéo où il parle d'une députée macroniste et il se déforme, il dit « Elle n'est pas de mon camp !» Je l'accuse, en plus, elle n'est pas de mon camp. Elle n'est pas raciste. Ah bon, il dit ça. Ben, au moins, quand il dit ça, ça nous met tous sur un pied d'égalité. Parce qu'on n'a peut-être pas tous un oncle raciste, mais au moins, on a tous un alloncle raciste.
Ouais,
ça, oui. Ben ouais, ben évidemment, j'ai hésité. Je savais que vous auriez cette réaction. Wow. Non, mais c'est vrai, il a un biais de droite. Il est député pour Éric Ciotti. Et d'ailleurs, dans ma chronique, j'avais prévu de dire « Ah ouais, mais s'il veut être cohérent, Charles Lalonde, avec l'argent public, ben il a qu'à faire une enquête sur les frais de mandat des députés !» Mais pas de bol, parce que j'ai vu que cette semaine, la première mesure de Éric Ciotti en tant que maire de Nice a été de baisser les indemnités des élus. Et je me suis dit « Merde, ça fait pas les affaires de ma chronique, ça !» Je me dis « Ce serait quand même plus simple pour nos chroniques si les mecs de droite, ils faisaient des vrais trucs de droite, quoi !» Parce que si Éric Ciotti commence à faire des trucs de gauche, ben moi j'arrête, hein. C'est trop dur d'être rigolo, après. Parce que oui, une société juste avec une répartition équilibrée de l'argent public, d'accord ? Après, il faudra pas pleurer si nos chroniques sont moins marrantes. Hein. Parce que là, je suis à 2 doigts de dire du bien d'Éric Ciotti. Hein, vous voyez pas, mais depuis 10 secondes, Pierre-Emmanuel me donne des gros coups de pied sous la table, là. Hein. Voilà, donc si Éric Ciotti nous écoute, bah, qu'il prenne pas trop la confiance quand même. Merci à tous, bonne journée, salut.
Merci Thomas Védélé. On retrouve sur scène tout nouveau spectacle à partir de décembre ici même à l'Européen. Merci Thomas. Your last
chance to Étonnant le succès de Nova, hein. Nova qui est une radio qui existe depuis longtemps mais qui a pris un avec cette bande d'humoristes, certains venant de France Inter, qui a pris un virage éditorial alors pas nouveau, il y a toujours eu cette tonalité éditoriale dans Nova, mais plus marquée, on va dire. Et ça cartonne. Et ça cartonne, c'est énorme. Je vous ai pas mis un article. Bon, j'aurais pu vous le mettre. Il y avait un article ce matin, moi, les audiences de télé, de radio, je m'en fous un peu. Mais par contre, du coup, cette nouvelle grille, la ligne éditoriale est la même, mais elle est plus affirmée. Cette nouvelle grille, elle cartonne. Hop, je vous montre l'article dans Le Parisien ce matin. C'était pas prévu, mais comme vous avez parlé de ce sketch, Nova au sommet. La performance la plus marquante, c'est l'envolée de Radio Nova, qui enregistre la plus forte hausse, toute radio confondue, c'est, oui, avec 1,6 million de fidèles, plus 830 000 sur un an. Ils ont fait x2. Je n'ai pas souvenir de radio qui ait jamais fait ça. Ils ont pris leur audience et l'ont multiplié par 2. Voilà. La station continue de récolter les fruits du recrutement de l'humoriste Guillaume Meurice, hein, donc qui est parti de France Inter, si je ne dis pas de bêtises, et sa bande, Nova, est désormais plus écoutée qu'Europe 2. Voilà, malgré la présence de Coël Matin. Ce n'est pas la même ligne éditoriale.
Combien ?
1 600 000 fidèles. Plus 830 000 sur un an.
Combien ?
1,6. C'est x2, c'est beaucoup. Voilà. Voilà. C'est incroyable, hein ? Donc merci, pour... on a fait un petit pas de côté, mais quelqu'un m'a dit « Ah, est-ce que t'as vu la chronique de Thomas VDB sur à l'oncle ?» Il n'est pas parti de France Inter, il s'est fait partir. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, il s'est fait partir, oui. Oui, oui. Il a surtout été viré, oui, tout à fait. Ah, ça arrive hein, dans le duel public, des gens qui sont un peu mis de côté, là. Mais parfois, ils marchent plus fort après, encore. Ça, c'est... Bon, c'est comme ça. Elle est horrible, la police de l'article. Ah, la police de l'article du Parisien, t'aimes pas ? Bah, c'est la police du Parisien. Après, c'est... Moi, ça va, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Moi, je préfère la police du Parisien que la police d'un régime autoritaire, par exemple, tu vois. Mieux qu'Europe 1 ? Oh non, peut-être pas, non, Europe 1, non. Non, parce que ça, c'est quand même pas les mêmes moyens. Europe 1, qu'ils en sont où, Europe 1 ? Europe 1 chute. La station portée par Pascal Pro et Dimitri Pavlenko coince avec 2,63 millions de fidèles. Ah, ben 1,6 million pour Nova et 2,63 pour Europe 1. Quand tu vois la différence de moyens, en fait, c'est. Ouais. Ah, ouais. Le rapport coup de grille. Auditeur est vachement favorable à Nova, du coup. Un score en recul sur un an, moins 30 000 auditeurs, et surtout sur une vague, moins 230 000. Est-ce que c'est la fin de la remontada de la radio de Bolloré ? Pas sûr. Écrit le Parisien, la dynamique reste bonne depuis la relance en 2022 avec la mise en place de nombreuses passerelles avec CNews. Voilà. Je vous lis, hein. France Inter a fait une très bonne publicité à Nova environ Maurice, je vais sur Nova depuis son recrutement. Bah tu n'es pas seul, manifestement tu n'es pas seul, les chiffres sont assez incroyables. Et je prends le pari, j'aime pas prendre des paris sur l'actu, mais je prends le pari que ça va continuer, vous savez pourquoi ? Parce que l'actu s'y prête, hein. Là, on va se rapprocher de la présidentielle, là on, dans les journaux je vois de plus en plus d'articles sur la politique, bien sûr je vous lis pas tout, hein. Mais la matière qui arrive là est propice à ce que ça se poursuive, quoi. J'écoute pas la radio, mais là ça donne envie. Ah bah ce qui est bien, c'est que bah, une grosse partie des programmes de Nova, notamment ces chroniques humoristiques, tu vas les trouver sur YouTube, quoi. Mmh. Ouais. Il me semble avoir lu qu'au global, la radio perd des auditeurs quand même. Ah bah la radio, et comme la télé, perd des auditeurs, des spectateurs chaque année depuis un moment. C'est un lent mouvement. C'est pas brutal, hein. C'est pas brutal. C'est-à-dire. Mais c'est, ça baisse tous les ans. Bien sûr. Parce que les gens, ils consomment autre chose. Mais ça, vous le savez, puisque vous êtes ici. Ha ! Pourtant, c'est tellement top la radio. Je suis d'accord. Quand il n'y a pas trop de pubs dedans, parce que parfois, c'est inécoutable. Ouais. Ah bah, un Babiz qui dit trop de pubs à la radio. Ouais. Ah, c'est compliqué, ouais. Trump a retiré le magnifique visuel de lui en Jésus. Ah, il a rien. Ah oui. Alors hier, on s'est beaucoup penché sur ce visuel de Trump en Jésus. Ah, il a retiré. Dis donc, ça recule beaucoup en ce moment. Eh ben, dis donc. Il y a eu un. Ok. Ouais, taco, exactement. C'est le syndrome taco. Trump always chicken out. Ah oui, oui. Alors c'est quoi cette histoire de il pensait que c'était un médecin de la Croix-Rouge ? Oh non, arrêtez avec ça. Ah oh non, arrêtez avec ça. Non, ah oh non, Trump a fait une trap ? Il a dit que c'était pas Jésus, que c'était un médecin de la Croix-Rouge ? Oh non, c'est pas, je vous crois pas. Non, non, non. Non, non, non. Eh, c'est pas un sketch, hein. Quoi ? Oh putain, le mec est fou. Oh non. C'était moi en médecin ? Pas en Jésus, quoi ? C'était moi en médecin, soignant... Quoi ? Mais c'est un médecin, ça ? Oh non, mais c'est trop... Mais en fait, on est censé faire une revue de presse et parler d'actu, et en fait, le mec tourne ça en cirque permanent, quoi. C'est quoi ces politiques à l'étranger comme en France qui ont décidé de faire l'actualité un cirque non-stop, quoi. C'est plein d'air, quoi. C'est, laissez-nous bosser sérieusement. On est là pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Oh non, c'est pas possible. Ah bon, on va rajouter. Non, je ne veux pas en parler. On va en faire un titre. On va en faire un titre. Voilà, ok. Je rajoute ça dans l'actu. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez, on le fait en direct. Hein. Ok. Ajouter un sujet. Hop, on va remonter le sujet. On va appeler ça Trump. Trump. Confond Jésus.
Avec un médecin.
Excusez-moi, mais c'est... Bon, je vois qu'il y a plusieurs articles. On va mettre Libération. Incroyable. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut pas être sérieux, quoi? À un moment, il faudra... les Américains, faut-nous le changer, votre président, là? Parce qu'on ne peut pas, faire de l'actualité un spectacle humoristique permanent, quoi. Hein? Allez. Allez, bon, bah, on va commencer avec ça. C'est une fausse ouverture, comme on dit. Bon, 30 minutes d'intro, on va pouvoir y aller. C'est incroyable. Hein. En fait, maintenant, à chaque fois qu'on va parler de Trump, on devrait mettre une petite musique de cirque. Hop, 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 hop. Mon Sugar, tu vois où je veux en venir? Hop, hop, hop. Sugar, pourvoyeur officiel dans cette communauté de sons, hein, de sons tels que... Je ne sais pas, moi.
Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Wallah, c'est pas moi.
Bon bah, acquitté, tu peux y aller. Ah bah, il a dit voilà. Ah bah si, voilà, ça marche.
Ou encore...
Eh oui, ça méritait, il a pris de l'argent.
Ou encore...
Mais fais un tweet si tu veux, ça t'amuse.
Ou encore...
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Ou encore...
For sure.
Ou encore...
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Ou bien...
Je vous ai compris.
Ou alors...
De vous.
Ou encore...
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas.
Mon Sugar, fais-moi une musique de cirque. C'est celle-là. Imaginez, en fait, maintenant, à chaque fois qu'on va parler de Trump, on va mettre ce son. Voilà. Wow, c'est vraiment, il y a vraiment qu'aux États-Unis on peut avoir ça, quoi. Ah oui, non, c'est pas vrai. Une émission de radio récemment a fait jouer cette musique de cirque. Ah, c'était RMC, les grandes gueules, en recevant qui déjà? Ah oui, le député UDR, rapporteur de la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle. Et quand il est rentré, ils ont mis cette musique. L'entrepreneur. C'est un mensonge qu'il a inventé, comme les autres trucs qu'il raconte. Il est rentré là-dessus. Oh, la tête. Et donc, ben nous, on le fera, mais pour Trump, nous. Ou peut-être pour les deux. Voilà. Peut-être pour les deux. Il n'avait pas aimé du tout. Voilà. Non, tu m'étonnes. Voilà. Donc, en fait, nous aussi, on en a. Hein. Donc, c'est pas arrêter de vous moquer des Américains, quoi. On peut regarder. Oh, on l'a déjà fait. Tu trouves ça en deux secondes. En vrai, c'est assez drôle. Bon, on va peut-être y aller du coup, parce qu'on a de la matière. Hein. Vous avez vu le sommaire, il y a des trucs. Hein. Ouais. Pire de vous voir. Alloncle va manger un procès de Media One aussi. 100%, il assume son tweet sur les cocktails. Ah oui, alors il a été prouvé pendant les auditions que l'information sur les cocktails, mais aussi l'anniversaire. Là. Je crois que c'est le Media One, c'est surtout l'anniversaire. L'anniversaire soi-disant organisé pour la réélection de Madame Ernotte. Et donc, il lui a été démontré par A plus B à plusieurs reprises pendant les auditions que c'était une fake news. Et il a maintenu son tweet. Effectivement. Il a donné une interview où il a dit non, je maintiens mon tweet parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit sous serment. Donc, dans la commission, il y a les gens qui disent sous serment des mensonges. Et ça, c'est vrai. Hein? Et quand quelqu'un dit la vérité sous serment, ça, c'est faux. C'est Ne me dites pas comment il arrive à s'y retrouver dans sa tête, mais ouais, il a donné une interview il y a un jour ou deux, quoi. Donc effectivement, on pourrait estimer que du côté des représentants de Media One, il pourrait y avoir une plainte éventuellement. Ça fera beaucoup parce qu'il y a celle de Nagui déjà qui est en cours d'instruction. Alors si on rajoute celle de Media One, c'est vrai que il va passer plus de temps dans les tribunaux qu'à l'Assemblée. Hein. Mais il va en jouer de cet éventuel procès en disant, vous avez vu, je les dérange. Oui, mais enfin bon. Je pense qu'à un moment, un des moyens que nous avons, citoyens, pour lutter contre cette désinformation qui est un danger monstrueux pour notre démocratie, à un moment, l'un des instruments, c'est la justice. Parfois, il faut y aller, quoi. Ouais. Il a son immunité parlementaire, oui, qui ne le protège pas pour les propos tenus en dehors de l'hémicycle. Doulet. Eh oui, c'est-à-dire que un tweet par exemple sur X théoriquement n'est pas protégé par l'immunité parlementaire. Et c'est qu'un exemple. Plus on va avancer dans ce combat contre la désinformation et les fake news en France, plus ce combat, à un moment, va se judiciariser. Parce que d'ailleurs, on va en parler ce matin. Regardez, il y en a un sujet sur les fake news. La deuxième guerre des réfugiés, qui est une illustration sur la question des réfugiés en France, de comment certains, et notamment certains partis politiques, font de la désinformation et quels sont... C'est le début d'une réflexion que nous devons avoir, nous, collectivement, en tant que citoyens. C'est comment on lutte. Alors, les journalistes, les débunkers ont une responsabilité là-dedans, les citoyens aussi, en faisant attention aux infos qu'ils consomment. On se demande toujours qui parle, quel est le processus qui a amené à cette information. Puis à un moment, il y a la justice aussi. Donc il y a plusieurs outils pour lutter contre la désinformation. Voilà. Et en étant optimiste, puis il y a la loi aussi. Et en étant optimiste, on peut se dire que c'est peut-être un combat que la République, que la démocratie va pouvoir gagner. Allez, on y va. N'oubliez pas, je vous attends ce soir. On a un stream de fou. Plusieurs mois de boulot, hein. Plusieurs mois de boulot là-dessus. Réponse cache 2. Alors pourquoi réponse cache 2? Parce qu'on a fait un réponse cache 1 il y a quelques mois. C'était super. Hein, c'est un grand jeu sur les questions de moula, de tunas, de pépette, de plata. C'est parti pour les synonymes. J'ai dit thune, j'ai pas dit thune. Thune. Qu'est-ce qu'on... Oseille, oui. Flouze, oui, je prends, oui. Oui. Blé, caillasse. Bif, j'aime bien ça. Brousouf. Sousou, denier. Est-ce que Culture Clash 1 est disponible sur YouTube? Oui. Pépette, sesterce, maille, bas de laine, joli. Moula, j'ai dit oui. Pognon, bien sûr. Pognon de dingue. Pognon de dingue, c'est surtout pour l'argent public, ça. Tunas. Exactement. Donc on a déjà fait une émission comme ça. Il y avait Rayou, il y avait Henri Tran, il y a son frère dans l'édition de ce soir, il y avait encore, je me demande s'il n'y avait pas 4SUP, je sais plus, enfin c'était super, et là on fait une deuxième édition ce soir 20h, donc c'est un peu de boulot quand même, voilà. Ah bah il y a Mathieu qui a mis, voilà, je vous épingle le réponse cache 1, et donc deuxième édition ce soir, voilà. Réponse cache 2 avec, excusez du peu, hein, pardon pour la line-up, Domingo, donc PA, Kevin Tran, hein, fera-t-il mieux que son frère? Je me demande si c'est pas Kevin, non, c'est pas Henri qui avait gagné. Marie, Enjoy Phoenix, et Baguerin, voilà. Et un invité ou une invitée surprise. Et un invité surprise. Donc ça, c'est 20h. C'est Henri qui avait gagné la première édition. Ah super, merci Mathieu. Et alors, l'édition a été sympa, parce que toute une mécanique qu'on a dû inventer et tout, donc c'était vraiment... On avait bossé un petit peu, et là, on a ce qui est intéressant sur Twitch et YouTube, parce que l'émission avait été pas mal vue sur YouTube aussi, c'est que, bah, évidemment, les gens laissent des commentaires, et ont été voir les commentaires, et les avis étaient partagés et généraux, c'était le jeu est sympa, on a bien rigolé, mais les questions étaient un peu compliquées, étaient un peu trop dures, et donc on a bossé là-dessus, on a fait une mécanique plus, je dirais, plus simple, plus lisible. Une mécanique de jeu, c'est comment s'organisent les règles du jeu, quoi. On a rajouté un petit peu d'event, enfin de jeux physiques. Il y a des fléchettes. Voilà. Il y a un monde où il y a des yeux crevés ce soir. Il y a du basket. Il y a un autre jeu. Je vous dis pas tout. Donc il y a alternance entre des épreuves physiques et intellectuelles. Voilà. PA aux fléchettes, c'est quelqu'un ? Ah, c'est vrai qu'il a une tête de champion de fléchettes. Je sais pas pourquoi. Je vois très bien PA hyper concentré, les yeux plissés là. Avec un petit geste un petit peu fluide comme ça, je le vois. Ouais. Sam sur le basket ? Non, moi j'anime, moi. Voilà. Et puis on a fait des questions un tout petit peu moins dures, parce que la dernière fois c'était vraiment waouh. Voilà. Basket avec Kevin Tran, il va tout plier. PA, il est dans tous les sports, il est fort. Ouais, enfin quand il est pas blessé. Voilà. C'est à quelle heure ? Alors je crois que c'est à 20h, fais voir. Je crois que c'est à 20h. Voilà. Donc on va bien rigoler. Gros stream. Il a des fléchettes à son bureau. Waouh. Question dure. Il faut pas oublier que les streamers ne brillent pas par leur intelligence. Dis donc, Alastair, c'est pas ça du tout. C'est les viewers qui se plaignaient. Non, les invités se plaignaient pas, parce que ils sont forts, les invités. Moi, je sélectionne que des très forts. Oui, la farge d'électrique Catboy. Alors, c'est vrai qu'il y a le verdict dans l'affaire Lafarge avec d'anciens dirigeants du groupe Lafarge qui ont été condamnés à de la prison, hein, pour financement de terrorisme. Il y a beaucoup d'articles ce matin, mais je ne les ai pas trouvés fous. Et donc, je compte sur Le Monde, qui va sortir cet après-midi, pour nous faire un papier, on va dire, plus large, qui nous explique bien le sujet. Et donc, je vous le mettrai demain matin. Voilà, parfois, j'aime bien attendre quelques heures, 24 heures. Voilà. Et ce matin, j'aurais pu... Il y a des papiers dans les Échos, dans le Figaro, dans le Paris... Enfin, tout le monde en parle. Mais j'ai trouvé que ça manquait de contextualisation, quoi. Ça manquait un petit peu de matière, de gras, quoi. Donc, l'affaire Lafarge, bien sûr. Et donc, je pense que j'en parlerai demain matin. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'une entreprise, il y a des dirigeants qui ont été condamnés, mais l'entreprise aussi, c'est la première fois qu'une entreprise française, est condamnée pour financement du terrorisme de Daesh. Je crois que c'était en Syrie à l'époque. Ouais. Et en gros, voilà, ils étaient dans un endroit où il y avait Daesh de partout, et plutôt que fermer l'usine, ils ont préféré continuer à bosser. Voilà, et du coup, pour pouvoir bosser, ben, ils ont arrosé à hauteur de plusieurs millions, 5 millions, je crois, plus de 5 millions d'euros, les terroristes du coin. Voilà. Et donc, on finançait le terrorisme. Waouh. Donc, c'était il y a un petit moment, hein, mais l'enquête a été longue. Voilà. Et donc, les condamnations viennent de tomber. Ouais. Donc, c'est pas un truc que je mets sous le manteau. C'est un truc dont je vous parlerai sans doute demain matin. Ouais. J'avoue, j'aimerais bien connaître l'intérêt de ça. C'est une vanne. Yeah. Salut, Zinraziel. Qui me demande, mais je voudrais bien connaître l'intérêt de ça. C'est-à-dire, pourquoi ils ont fait ça ? La thune, la moulaga, les pesettes, le flouze, le bif, les pépettes, la thunasse, la caillasse, les pesos. C'est juste pour pouvoir continuer à faire de la thune, quoi. Tu te posais la question premier degré ? Non, c'était pas par idéologie, c'était pas des... Subitement, les gars de Lafarge n'étaient pas devenus fans de Daesh, quoi. Ouais. C'est bien, on n'a pas commencé la revue de presse que déjà on a fait toute l'actu, quoi. Voilà, bon, on en parlera sûrement demain parce que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle longuement. Voilà. Ok, bon. Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? 43 minutes d'intro, normalement c'est 30 minutes, c'est pas très sérieux ça. On y va? Go! Allez, c'est parti. On va dire bonjour à ceux qui nous écoutent en... On envoie un max de force à Vosrodenier dans le chat à l'instant qui nous écrit « Coucou Papi Sam, merci pour tous ces rendez-vous. Je rentre à l'hôpital pour une greffe de cellules souches. Tu vas être l'un de mes points d'ancrage avec la normalité. Pendant ces semaines compliquées, Vosrodenier, on t'envoie un max de force. » Voilà, max de force, max de cœur. N'hésitez pas à envoyer un petit message à notre ami. Voilà. Merci Babiz, merci Steam, merci Wanadis, merci Goldoralph, merci Rugo, merci Léo Stone. Merci Clavote, vous êtes incroyable. Merci Un Homme Lent, merci Zelda, merci Yann. Merci Barbocu, merci à tous. Je ne vous ai pas remercié depuis tout à l'heure, pardon. Merci pour tous les messages que vous envoyez à Vosrodenier. Alors, on va commencer maintenant la revue de presse. Ne soyez pas surpris, je vais dire bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast audio, puisque la revue de presse en podcast audio, qui est postée tous les jours sur les plateformes de podcast depuis septembre, elle commence là. Ils n'ont pas le sommaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le sketch de Thomas VDB, ils n'ont pas eu nos délires sur plusieurs sujets, ils ne nous ont pas eu en musique de cirque, ils n'ont pas eu le fait qu'on parlera de la farge demain, voilà. Eux, ça commence maintenant. Ok ? Salut Mazev, bienvenue. Alors, sommaire, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est le mardi 14 avril 2026. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent en live sur Twitch en ce moment, à tous ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube et à tous ceux qui nous écoutent en podcast audio. On poste la revue de presse tous les matins à partir de 15-16 heures. La revue de presse du matin à partir de 15-16 heures sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Merci beaucoup. Et ce qui est trop chou, c'est qu'il y a plein de gens désormais qui viennent de YouTube pour écouter la revue de presse en direct sur Twitch et qui viennent du podcast audio pour écouter la revue de presse en direct sur Twitch, ça c'est top. Voilà. Quel que soit le support que vous soyez là, ça nous fait plaisir. On commence par le sommaire. D'ailleurs, je me demande ce qu'on va mettre sur YouTube en avant. En vrai, le mariage protège-t-il du cancer? C'est drôle. Mais peut-être que Trump confond Jésus avec un médecin, c'est pas mal aussi. J'hésite. Oh, les coucous YouTube, ça fait plaisir. Ouais. Trump? Ouais. Ouais. Tu as mis Trump hier déjà. Ouais, mais bon, ça marche toujours, hein, Trump. Ça fera Trump deux jours de suite, ouais. Allez, on change. Fake news, c'est hyper intéressant. RN, à quoi joue le patronat aussi. Hongrie, nouvelle donne, on a beaucoup parlé hier. Peut-être le mariage qui protège du cancer. Allez, hein, une bonne nouvelle. Eh oui, le mariage. Le mariage qui protège du cancer. Enfin, qui protège du cancer. En fait, c'est des trucs qui vont avec le mariage qui protège du cancer, mais je vous explique tout ça. On fait ça? Ok, super. Alors, c'est parti pour le sommaire. Let's go. Dans l'actualité aujourd'hui, de quoi je vous parle? Eh ben, d'abord, cette actu que m'a mis en tête la commu tout à l'heure. Hier, on vous parlait de Trump qui s'était mis en scène sur son réseau social avec un post qu'il avait fait en Jésus. En Jésus. Voilà. Et on s'est dit, mais c'est... Voilà. On a parlé aussi de ces échanges tendus et musclés avec le pape. Voilà. Eh bien, le feuilleton se poursuit. Puisque vous m'appreniez tout à l'heure qu'il a fait machine arrière, il a retiré son post, son tweet, voilà. Il y a plusieurs articles ce matin, Donald Trump retire l'image, le figurant en Jésus après l'indignation de la droite religieuse américaine. Voilà. Et alors pourquoi il retire? Pourquoi il a taco? Pourquoi Trump always chicken out? Trump se dégonfle toujours. Parce que, alors il explique... c'était censé être moi en tant que médecin, soignant les gens. Et je soigne les gens. Je les soigne beaucoup. Je vois pas qui Trump soigne, mais peu importe. Et donc, il a dit que ça, cette image-là, bon, c'est Jésus, hein, c'est Jésus qui guérit, hein, quand t'as un minimum de culture religieuse, il pensait que c'était un médecin. Voilà. Médecin avec... Je ne peux pas vous... Oui. Alors, on lira cet article, ok ? Voilà. Ensuite, encore du Trump. On va dans le sommaire, c'est-à-dire que je vous donne l'essentiel dans quelques minutes, et après, on va développer tout ça pendant 2-3 heures. Trump, toujours lui, qui fait monter la pression dans le détroit d'Ormuz. On en parlait hier, mais là, ça mérite un peu d'analyse. Où on est, la guerre en Iran, hein, c'est ça le sujet. En réaction à l'offensive des armées américaines et israéliennes, vous savez que l'Iran a décidé de bloquer partiellement le détroit d'Ormuz, avec les conséquences que ça a sur le trafic du pétrole et sur l'économie mondiale. Trump, du coup, pour débloquer le détroit d'Ormuz, puisque l'un de ses objectifs, c'est de débloquer le détroit d'Ormuz, eh bien, il a essayé de bloquer le détroit d'Ormuz. Ne me demandez pas la logique de tout ça. À un moment, je ne peux pas tout faire. Donc, il a décrété que lui aussi allait bloquer le détroit. Parce qu'il a dit, s'il y a quelques navires qui passent quand même, notamment iraniens, il dit, c'est pas normal. Donc, le monde nous éclaire un petit peu sur le sujet là-dessus. Et puis, on parlait de Trump qui se met en scène en Jésus. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le ton monte avec le pape Léon XIV. Voilà. Les deux s'envoient des messages assez clairs. Le pape Léon XIV écrit Le Monde opposant actif à la guerre de Donald Trump, ce qui ne plaît pas du tout d'ailleurs à Trump. Le chef de l'Église catholique qui multiplie les exhortations à mettre fin au conflit en Iran et au Liban a été très critiqué par le président américain. Dossier dans Le Monde. Hier, grâce à vous encore, on a longuement parlé de la Hongrie, hein, et de la chute du dirigeant pro-russe Viktor Orban après 16 ans de pouvoir illibéral en Hongrie. Alors, c'était pas encore dans les journaux parce que c'était tombé dans la nuit, les résultats, des résultats très nets. Mais on est allé chercher les articles hier, et là, on a un dossier dans Libération qui revient tranquillement, calmement, sur les enseignements qu'on peut tirer de cette chute de Viktor Orban et de ce qui va se passer peut-être désormais avec son successeur, Peter Magyar, le futur nouveau Premier ministre. Parce que c'est ce qu'on fait ici, il y a les infos brutes et puis on essaie d'y réfléchir avec de la matière. Alors, je vous ai proposé aussi un dossier dans le sommaire que j'ai résumé ainsi, le RN, donc Rassemblement National, deux points, ouvrez les guillemets, à quoi joue le patronat. Alors, si vous suivez cette revue de presse, vous avez des infos en tête. Récemment, on a parlé d'un dîner, je crois que c'était un dîner, entre des grands patrons français de grosses entreprises du CAC 40 et des représentants du RN. Voilà. Ce qui est assez nouveau, ce qui est nouveau, des échanges entre le parti et des dirigeants de très grosses entreprises françaises. Voilà. Donc ça, on en a parlé. Et du coup, ben, là, on a des articles d'analyse là-dessus. On a Libération, par exemple, qui a écrit « Le patronat français pour partie hein, marionnettiste d'une extrême droite consentante. » Alors, là aussi, on a Thomas Legrand dans Libé qui essaye de mettre un petit peu de la lumière dessus. Pas la rêve perso. Camille, tu n'es pas au courant de ce dîner ? Ah ben, je vais te raconter tout ça. Et du coup, on a un patron. Le patron de la Maif, donc qui est une mutuelle, une assurance, c'est ça ? Dans Le Monde, qui prend la plume et qui dit bah, « Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Il s'appelle Pascal Desmurger. Pour les patrons, le rapprochement avec le RN, dit-il, est une erreur tactique, une illusion politique. Le directeur de la Maif alerte sur les risques pour les dirigeants d'entreprise des accommodements avec un parti profondément anti-républicain. Voilà, on lira ce papier, ce qui nous permettra d'échanger un peu sur le sujet. Merci Mongâtre TV. Merci Lombric. Merci beaucoup. Coucou Camille, à tout à l'heure. Autre sujet, je suis dans le sommaire toujours, un sujet dont on devrait parler tous les jours, hein, qui est la lutte contre la désinformation qui progresse. Aujourd'hui, on est rentré dans une époque de vérité alternative où vous avez de plus en plus de gens qui, avec un aplomb surréaliste, affirment haut et fort et ne cessent de répéter des dingueries, hein, de la désinformation pure. Mais qui, à force de le dire et de le répéter et de voir leur message amplifiées sur les réseaux sociaux finissent par créer des vérités alternatives avec des citoyens qui disent bah oui c'est sans doute vrai puisqu'il le dit. Voilà. Et donc là, on a un dossier dans La Croix, un gros dossier de plusieurs pages sur comment, par exemple, les réfugiés politiques peuvent être victimes une deuxième fois, parce que souvent ils fuient des régimes autoritaires ou des guerres, donc victimes une deuxième fois de ces fake news. Voilà. Ils ont fui Gaza, ils ont fui Kaboul, Kiev ou Téhéran pour trouver la paix en France, par exemple. Mais une fois sur place, montage vidéo et pseudo-reportage les prennent pour cible de nouvelles attaques menées par des agresseurs invisibles. Dossier de La Croix intitulé « Fake news, la deuxième guerre des réfugiés ». Je parlais tout à l'heure de la justice qui pouvait être un outil justement pour lutter contre les fake news. Il y a un jeune homme, par exemple, là, militant d'extrême droite, qui a fait un post en ciblant des réfugiés afghans. Et ce jeune homme est poursuivi en justice. Voilà, je vous lirai ce papier. Et puis on finira sur quelque chose d'un peu plus léger. Il faut se marier. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Hein. Il faut se marier. Vous allez me dire pourquoi? Parce que ça protège contre le cancer. Bon. Alors, une fois ceci dit, c'est le Figaro qui s'interroge. Est-ce que le mariage protège du cancer? Une étude scientifique américaine met en lumière un lien étroit entre statut conjugal, conditions de vie et risque de développer la maladie. Avec qui? Avec qui vous voulez? Alors, je préchote. Évidemment, ce n'est pas le mariage, le fait de se marier qui guérit du cancer ou protège du cancer, mais c'est une forme de vie et sans doute une forme d'hygiène de vie, hein, qui, elle, protège contre le cancer. Voilà. Donc on se penchera sur ce papier, c'est assez intéressant. Voilà, exactement, c'est le mode de vie associé au mariage qui protège contre le cancer. C'est un peu raccourci pour un titre accrocheur. Alors non, le titre n'est pas tellement accrocheur. Le titre accrocheur, ça aurait été le mariage protège du cancer. Voilà. Ce qui est indirectement vrai. Mais en mettant un point d'interrogation, je trouve que le Figaro est assez rigoureux là-dessus, quoi. C'est vraiment une question, quoi. Non, ils sont assez prudents. Voilà. Donc tu te protèges du cancer au prix de ta santé mentale et physique, dit autistique qui n'a pas du tout envie de se marier. Voilà. Est-ce que la belle-mère réduit mon espérance de vie? Ça dépend de la belle-mère. C'est de la propagande pour le mariage. Vous le prenez comme vous voulez. Après, moi, je suis juge et partie, parce que vous le savez que je suis marié et très heureux ainsi. Donc, voilà. Attention, il y a un biais. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas cette revue de presse, je vous rappelle, un des fondamentaux de ce qu'on fait ici, le vieux bonhomme que vous avez devant vous, il est plein de biais, hein, conscient et inconscient. Donc, il vous parle d'actualité, mais d'abord, il choisit ses médias. Moi, j'aime lire la presse écrite, par exemple. J'ai décidé de lire les quotidiens. Hein, quoi? Pourquoi? Quoi? Les quotidiens nationaux. Bon, j'aurais pu choisir d'autres médias, mais c'est les médias que j'aime. Donc c'est un premier biais. Ensuite, je choisis certaines actualités, alors que je trouve importantes et intéressantes, mais. Alors, billets, pas billets BI2LETS. Hein. On parle pas d'argent, et encore moins d'argent public, là. Hein.
Mais oui, ça m'a été, il a pris de l'argent.
Ouais, mon Pascalou. Ouais. Donc BIIS. Voilà. Donc je choisis certains médias, je choisis certaines infos. Et puis après, pour le traitement de ces infos, je choisis certains articles. Voilà. Et donc, même si j'essaie de faire un travail transparent et honnête et rigoureux, il y a plein de biais là-dedans. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous consommez, tu es donc biaisé. Oui, donc comme toi, Cyril, comme tout le monde. Sauf que moi, je l'assume et je le dis. Et je vous mets en garde contre moi-même, ce que tout le monde ne fait pas. Voilà. Et donc, quand vous consommez une information, d'où qu'elle vienne, toujours se demander qui nous parle, comment il nous parle, pourquoi il fait ce choix, pourquoi ces infos, pourquoi ces sources. Voilà. Quand on arrêtera de prendre pour argent comptant tout ce qu'on se voit raconter par les médias et les réseaux sociaux, alors il ne s'agit pas de devenir complotiste, hein, et de penser qu'on est manipulé non-stop, mais voilà, juste un peu de rigueur intellectuelle, d'esprit critique et de distance. Donc moi, par exemple, j'ai un biais sur le mariage parce que je suis heureux en mariage. Oui, on les voit, les gros biaiseurs. Tout à fait. Ouais, Nix. On vous voit, les gros biaiseurs, là. Tout à fait. Ça biaise un max, ici. Ouais. Homme cherche femme pour être biaisé. Hein, quoi? Hein, quoi que tu... Hein? Oula, on va où là? Ok, vous êtes prêts pour la revue de presse? On peut y aller ou quoi? Bande de trollers. Hmm, tu ne biaises pas, Mitrandir, mais tout le monde biaise, tout le monde biaise. On a tous des biais, tout le monde biaise. Toi aussi tu biaises, même si tu ne te rends pas compte. On peut... Pardon. Parfois on biaise tout seul. Ça, on est devant, on lit son journal, on est devant le 20h, et on biaise sans s'en rendre compte. Et puis parfois on peut biaiser aussi à plusieurs. Voilà, quand on parle d'actualité avec des potes par exemple, et un peu dans une bulle informationnelle de confirmation de biais, voilà. Donc attention à quand vous biaisez comme ça. Devant Twitch, on peut biaiser, bien sûr, partout. Dans votre salon, devant le stream là, au travail même, hein, partout. Voilà. Bon, on peut aller bosser un peu là. Vous avez fini de dire vos conneries. Merci Bisounours, Radicalize. Merci Milady Rossichi. En ce moment aussi, tout le temps. Est-ce qu'on peut biaiser pendant une commission d'enquête? Ah bah surtout. Certains sont des spécialistes même. Hein, ça biaise très fort. Allez go, on y va, on va bosser un peu là. On est parti sur autre chose, j'ai l'impression. Allez go. Premier sujet. Il nous régale. Voilà. J'ai demandé à mon pourvoyeur officiel en son, Sugar, de me préparer une petite musique de cirque en mode. Là, je vous le fais en mode trompette pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore. Pour désormais accompagner toutes les dingueries que Trump sort au quotidien. Donc, alors, je ne fais pas la liste de ces derniers jours parce qu'on va y passer la revue de presse, mais notamment voilà, sa mise en scène en Jésus. Voilà. Hier, vous m'avez dit, ah, t'as pas vu le dernier tweet de Trump, il s'est représenté en Jésus qui guérit par l'imposition des mains. Vous avez le visuel ici, on arrive à ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà. Et il a reculé, il a effacé, il a dit, c'était pas du tout Jésus, je me suis mis en scène en médecin. Ah. Bon, un conseil, si vous allez voir votre médecin, votre généraliste par exemple, et que le gars il ouvre la porte, il vient vous chercher dans la salle d'attente et le mec il est habillé comme ça, vous vous barrez, hein. C'est pas un médecin, c'est un gourou, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas un médecin. Donc lisons cet article de Libération qui nous donne les infos. Donald Trump retire l'image le figurant Jésus après l'indignation de la droite religieuse américaine. Ah, il a peut-être oublié que parmi les électeurs américains il y avait des chrétiens, dont peut-être des catholiques. L'illustration montrant le président américain un halo de lumière dans les mains. Tout le monde sait que les médecins, ils soignent comme ça. Hein, hein. Moi, j'ai un médecin qui soigne comme ça, et avec ses mains, il a la lumière dedans. Hein. D'ailleurs, je vais toujours le voir avec des lunettes de soleil. Posant une paume sur un homme alité, avait été publié peu après un message virulent du président américain contre le pape Léon XIV. Est-il allé trop loin? Non. Non. Trump, non. Trump a supprimé donc une image leur présentant telle Jésus sur son réseau Truth Social face à l'indignation de la droite religieuse américaine, assurant qu'il s'agissait en fait de lui en médecin. Alors ce qui est bien avec Donald Trump, le président américain, c'est qu'on n'est jamais déçu, quoi. Tu te dis, mais il peut pas faire plus fort que... Et le lendemain, il fait plus fort. Ce n'était pas une représentation, c'était moi, je l'ai bien publié, je pensais que c'était moi. Alors cette phrase n'a aucun sens, mais c'est normal. N'essayez pas de la comprendre. Vous pouvez vous blesser. Ce n'était pas une représentation, c'était moi, je l'ai bien publié, je pensais que c'était moi. Ne me cherchez pas à comprendre, vous. Hein. A réagi le président américain lundi au sujet de cette illustration générée par IA publiée la veille. C'est censé être moi en tant que médecin, soignant les gens. Et je soigne les gens, je les soigne beaucoup. Alors, je ne sais pas d'où il soigne les gens. A-t-il dit en évoquant la Croix-Rouge. Donc les avions de chasse américains, là, l'aigle là, ce qui ressemble à être des soldats ici, des gens avec des casquettes militaires là, le drapeau américain, c'est le médecin ça. Normalement, quand vous allez chez le médecin, vous devriez avoir tout ça, hein. Vous aussi. Hein. Ok. L'image donc montre Trump drapé d'une toge rouge et blanche comme tous les médecins, hein, avec un halo de lumière dans les mains comme je vous le disais tous les médecins, et posant une paume sur le front d'un homme alité, c'est comme ça qu'on soigne hein, à l'hôpital, et entouré de personnes qui le regardent, s'inspirant des codes de la peinture chrétienne. Oh oh, arrêtez Libération, l'analyse là, c'est pas vrai ça. Hein. La scène comprend les attributs patriotiques américains comme des aigles, la bannière étoilée, un soldat en uniforme, un avion de combat ou la statue de la liberté. L'image avait été publiée peu après un message virulent du président américain contre le pape Léon XIV qui avait, on va en parler dans un instant, formulé samedi une sévère critique de la guerre en Iran. Lundi, Trump en a remis une couche sur le pape américain, le qualifiant de très faible. Alors, pourquoi il a retiré ? Pourquoi taco ? Trump always chicken out. Trump se dégonfle toujours. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais ce qui a pu arriver. L'image n'a pas été du goût de plusieurs figures de la droite chrétienne. Oh, Frandroid Live. Merci, ça fait plaisir le raid. Frandroid Live, vous avez parlé de quoi ce matin ? Racontez-moi, ça m'intéresse. Merci beaucoup. L'image n'a pas été du goût de plusieurs figures de la droite chrétienne qui ont rapidement dénoncé une représentation blasphématoire. C'est plus qu'un blasphème, c'est un esprit antéchrist. C'est indigné sur X, l'ancienne élue trumpiste. Alors, si les anciens alliés de Trump s'y mettent aussi, on ne va pas y arriver. Hein. C'est... Voilà. Trump s'en est pris au pape parce que ce dernier s'oppose à juste titre à la guerre menée par Trump en Iran. Puis il a publié une photo de lui-même comme s'il prenait la place de Jésus. La dame, Marjorie Taylor Greene, elle dit c'est l'antéchrist Trump maintenant.
Oh.
J'ignore si le président pensait faire de l'humour. Il est sous l'influence... Waouh. S'il est sous l'influence de substances, ou quelle autre explication il pourrait donner à cet outrageux blasphème ? Il doit retirer ce message immédiatement, a aussi déclaré Megan Basham, écrivaine et podcasteuse conservatrice habituellement proche de Trump. Oui, mais c'est franchement, c'est pas sympa. Hein. Si tous ses soutiens le critiquent maintenant, qu'est-ce qui... Hein ? Bon, alors, c'est pas facile d'être président non plus. Bon. Le vice-président, J.D. Vance, lui a minimisé l'image christique en la qualifiant de plaisanterie. C'est vrai qu'il était assez drôle. Personnellement, je préfère Thomas VDB. Lors d'une interview sur Fox News lundi, bien sûr, il l'a supprimé car il s'est rendu compte que beaucoup de gens ne comprenaient pas son humour. A déclaré Vance à propos de la publication. Il nous faut cette musique, hein. Vance a ajouté qu'il était parfois préférable pour le Vatican de s'en tenir aux questions de morale, référence au message de paix de Léon XIV sur la guerre. Alors, Libé contextualise. Trump a déjà utilisé des images religieuses dans ses publications. En mai, il avait publié sur sa plateforme un portrait de lui en tenue papale. Ah, c'est pas la première. Généré par IA après avoir dit qu'il aimerait être pape. Ouais, mais... Pff. Je ne sais plus quoi vous dire, moi. Moi, je ne sais plus quoi vous dire à un moment. Trump en pape ? Oh putain. Ah, j'avais oublié celle-là. C'est un récidiviste, en fait. Donc, c'était quand, ça ? 14 mai 2025. Trump a posté une photo de lui sur son compte X où il est déguisé en pape, l'index levé. Une image de lui générée par une IA. Et en effet, il avait déclaré « J'aimerais devenir pape, ce serait mon choix numéro un ». Ça, c'était avant que le conclave qui a désigné Benoît XIV commence. Waouh. Bon, bref, vous avez compris l'histoire, quoi. Donc, c'était pas une première. Quoi. Selon Matthew Taylor, chercheur à l'université de Georgetown, spécialiste du nationalisme chrétien, Trump a embrassé la rhétorique religieuse avec encore plus de ferveur après sa tentative d'assassinat en juillet 2024. le président septuagénaire, qui se dit chrétien mais ne prétend pas être particulièrement pratiquant, a bénéficié d'un soutien considérable de la part des chrétiens et évangélistes conservateurs lors de ses mandats. De nombreux sympathisants de droite s'opposaient déjà à la guerre en Iran, un fossé se creuse au sein de sa base catholique, mais les dénonciations du pape Léon risquent d'éroder encore plus cette base. Dit le chercheur. Historienne à l'université Calvin, établissement chrétien, Christine Dumès nuance toutefois ce constat. Si elle affirme que les soutiens religieux de Trump prennent leur distance avec ce qui relève clairement du blasphème, elle ne décèle pas pour autant la moindre indication qu'ils cesseront de le soutenir. Ok. Alors, il y a d'autres articles ce matin sur le sujet. Vous le voyez. Ouais, il y a un article du HuffPost. Le HuffPost, c'est bien parce que c'est un site d'infos sur Internet. Gratuit, hein, qui se finance par la pub. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de pub un peu partout, mais qui est de qualité. Et quand une actu vient de se produire, souvent, le HuffPost est assez réactif. Voilà. Tout en étant assez rigoureux aussi. Voilà. Et là, il y a un article dans Le Monde aussi. Qu'est-ce que nous dit Le Monde ? Face au tollé, le président a néanmoins reculé comme il l'avait fait en février après avoir posté une vidéo caricaturant Barack et Michelle Obama en singe. Ah, j'avais oublié ça. Ah ouais. En fait, on oublie, hein. C'est fou, hein. Sans doute encore de l'humour qu'on n'avait pas compris. Ah oui, vous l'aviez pas vu ça ? Oh là 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 là. Ouais. Je veux même pas vous la montrer celle-là. Ah, vous m'en voudrez pas ? À un moment, c'est pas possible quoi. Donc oui, effectivement, c'est documenté. Vous le trouverez si vous voulez vérifier cette info. C'est important de vérifier les infos. Mais effectivement, il l'a fait aussi. Mais je pense qu'on peut s'en passer, hein. L'image de Trump en crise guérisseur également effacée donc. Waouh. Alors là, la suite de l'article du Monde, c'est sur les relations tendues avec le pape, mais justement, on va en parler tout de suite nous. Voilà. Voilà. Du coup, on va inverser. Hop, je vous le remonte du coup. Parce que du coup, ça j'avais prévu de vous en parler après le détroit d'Hormuz, mais comme c'est directement lié à cette image générée par IA. Voilà. Je vous lis et on enchaîne avec le pape justement. Poussin sauvage, hello Samuel, une petite question, le pape peut-il excommunier des gens ? Merci pour ta réponse. Je ne sais pas, mais je crois pas que le... Je sais pas, il est catholique, Trump ? Parce que le pape, c'est les catholiques ? Ou il est protestant ? Parce qu'il se dit... l'article le disait, mais... C'est pas très important, mais... L'article en parle. Il se dit chrétien, disait l'article de Libé. Ouais. Jill Evans est catholique, ouais. Le vice-président, oui. J'ai acheté un croissant à la boulangerie ce matin, oui. Pardon, je réponds aux questions dans le chat. Il y a des courageux qui sont en train de nous écouter, en train de faire leur sport à la salle. C'est beau, je trouve. Alors, pardon, je fais une petite pause parce qu'effectivement, hier, j'ai raconté comment la boulangerie où je m'arrête tous les matins après avoir déposé les enfants à l'école, emmener les enfants, je les dépose pas parce que j'y vais en métro, donc c'est pas mon métro. Et donc, la boulangerie où je m'arrête tous les matins à acheter un café au lait, qui est ici, là, hier. La boulangère m'a offert le café au lait. Donc, voilà. Un grand débat. Très, très heureux, quoi. Peut-être pour remercier de la fidélité du café au lait quotidien, quoi. Voilà. Donc, offert. Et donc, je vous ai dit, c'est en même temps, commercialement, c'est malin parce que ça donne envie de venir tous les jours et puis peut-être d'acheter d'autres trucs, quoi. Et demain, j'achèterai un croissant. ce matin, café au lait. Voilà, mini croissant, pas le gros croissant, le mini croissant là. Ok. Donc je repars avec ça. Sorti de la boulangerie, tout de suite, t'ouvre le pochon. Moi, j'aime bien acheter des pochons comme ça. Ça, c'est passion pochon. J'ouvre mon pochon et pour manger mon mini croissant. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pochon? Qu'est-ce qu'il y avait dans le pochon? Ah, qu'est-ce qu'il y avait dans le pochon? Un mini croissant et une petite chouquette. Je crois que j'ai une bonne relation avec cette boulangerie. Voilà. Voilà. Attention aux réactions de monsieur à l'oncle. Non, non, c'est de l'argent privé. Tout va bien. Tout va bien. Donc, sans transition, on passe au pape. C'est parti. Alors, c'est quoi cette histoire avec le pape? C'est tendu, voilà. Pour résumer, en ce moment, c'est très tendu entre le président américain et le pape. Le pape Léon XIV, opposant actif à la guerre de Trump. Le chef de l'Église catholique, qui multiplie les exhortations à mettre fin au conflit en Iran et au Liban, a été très critiqué par le président américain. Voilà. C'est l'envoyé spécial à Rome du journal Le Monde, qui s'appelle Sarah Belouezan, qui écrit ce papier. Les membres du corps diplomatique ont pris place samedi au soir sur les sièges qui leur étaient réservés dans la basilique Saint-Pierre, non loin des cardinaux et des évêques. Ecclésiastiques et ambassadeurs près de le Saint-Siège étaient venus écouter la prière pour la paix décidée par le pape Léon XIV. Parmi eux, il en manquait un, le représentant américain, qui n'était pas là. Hein, parmi les membres du corps diplomatique venus écouter cette prière, le représentant américain Brian Birch. Catholique, soutien actif de Trump, pour qui il a poussé les électeurs à voter à travers l'organisation Catholic Vote, Brian Birch n'avait peut-être pas envie d'écouter ce que tous anticipent comme une nouvelle charge du chef de l'Église contre la politique internationale belliqueuse des États-Unis. Car depuis des jours, le pape américain, d'habitude si prudent, dénonce avec force les guerres conduites par l'administration Trump et Israël en Iran et au Liban. Au point même d'appeler les catholiques américains à faire pression sur leurs élus contre cet engagement militaire. C'est là où Trump, ça l'a un peu énervé. Samedi, Léon XIV a déclaré « Assez avec l'idolâtrie de soi-même. » Je ne vois pas du tout de quoi veut parler le pape. Le pape, il invente des trucs. De quoi il veut? De quoi? De l'idolâtrie de quoi? Donc pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, vous n'avez pas la mise en scène incroyable de cette revue de presse, je viens de remontrer à l'instant. Trump qui s'est présenté en Jésus. Voilà, mais en audio, ils n'ont pas la vanne, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc le pape, il dit « Assez avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent. Oh » comme si le président Trump profitait de ses mandats pour que sa famille s'enrichisse. Alors là, il va falloir me trouver les infos. Bon, il y en a plein. Assez avec les démonstrations de force. Bon, le mec a été élu avec la promesse de ne plus faire de guerre. Il en décrète une toutes les semaines. Assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie, dit le pape. Quel pape? Demande Zorgblou. Il n'y en a qu'un. En général, il n'y en a qu'un. Ah. Si un pote te dit « Moi aussi, je suis pape », c'est une fake news. Il n'y en a qu'un. Et le pape ajoute, donc le pape, hein, encore une fois, il n'y en a qu'un, il est temps de faire la paix, asseyez-vous à la table du dialogue et de la médiation et non à la table où se planifie le réarmement et où se décident les actions meurtrières. J'ai vu un papier ce matin dans la presse que je ne vous ai pas mis de côté sur l'augmentation non-stop des budgets de la défense dans le monde entier. Les budgets consacrés aux armées et à la défense sont en train d'exploser dans le monde entier. Face à la multiplication des menaces, quoi. Et évidemment, cet argent, il n'est pas mis ailleurs, quoi. Léon XIV a cité l'un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, qui l'a rappelé avoir été un témoin infatigable de la paix dans le contexte de la crise irakienne de 2003. À l'époque, le souverain pontife polonais, hein, Jean-Paul II, s'était opposé à l'invasion de l'Irak. Le pape a aussi regretté, comme à Pâques, les justifications religieuses de la guerre invoquées par des membres de l'administration Trump, comme Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la défense, hein, qui à un moment, on en parlait hier, a invoqué la religion en disant que cette guerre, quelque part, elle était... je ne me rappelle plus les propos de Pete Hegseth, mais c'est surréaliste. On en a parlé hier. Elle avait une caution religieuse, quoi. En gros, que Dieu était du côté des Américains dans cette guerre contre l'Iran. Hein. Vous le retrouverez sur Internet. Hein. Même le nom saint de Dieu, le Dieu de la vie, est entraîné dans les discours de mort, dit le pape. Dieu ne bénit aucun conflit, avait écrit le pape sur le réseau X la veille. Le 7 avril déjà, Léon XIV avait jugé inacceptable les menaces de Donald Trump d'anéantir toute une civilisation et s'était adressé à ses concitoyens américains. J'invite chacun à prier, mais aussi à chercher des moyens de communiquer, peut-être avec des parlementaires, les autorités, pour dire que nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Le pape n'engage pas un duel avec Trump, mais il tente de mobiliser, par son autorité morale, ceux qui auraient la possibilité d'influencer la politique du président américain. Il ne se présente pas comme un anti-Trump, explique Christopher White, qui est chercheur. L'Église n'a pas d'armée, de pouvoir économique. Tout ce qu'elle a, c'est son pouvoir moral. Léon XIV multiplie ses appels avec l'espoir qu'ils aient un impact politique sans pour autant apparaître partisan. Trump, lui, a engagé un duel dans la soirée de dimanche, dans un très long post sur son réseau, Truth Social, estimant que le pape était faible, toujours cette manie de mettre des mots que le président américain juge importants en gros caractères pour les gens qui ne lisent peut-être que les mots en gros, était faible face aux crimes et désastreux en politique étrangère. Il évoque la peur suscitée par l'administration Trump, hein, mais omet de mentionner la peur qu'a éprouvée l'Église catholique, et là tu te dis mais de quoi il parle, ainsi que toutes les autres organisations chrétiennes durant la pandémie de Covid, lorsqu'on arrêtait les prêtres, les pasteurs, les fidèles, pour avoir célébré des offices religieux. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire là, mais bon. Moi, je ne peux pas tout vous expliquer. Hein. Chez Trump, il y a un moment, je suis pas outillé. Avant de poursuivre, je ne veux pas d'un pape qui juge acceptable que l'Iran détienne l'arme nucléaire. Je ne veux pas d'un pape qui s'indigne que l'Amérique ait attaqué le Venezuela. Je ne veux pas d'un pape qui se permette de critiquer le président des États-Unis. Bon, au moins c'est clair, quoi. Il est grand temps que... Alors, tout ça, vous pourriez penser que c'est des propos inventés, quoi. Avec une IA, quoi. Et, hélas, non. Il est grand temps que... En plus, il l'écrit. Il est grand temps que Léon reprenne ses esprits en tant que pape, qu'il fasse preuve de bon sens, le fameux bon sens, le fameux bon sens près de chez vous, qu'il cesse de courtiser la gauche radicale et qu'il se consacre à sa véritable vocation, être un grand pape et non un poéticien. Aux États-Unis, le souverain pontife est largement secondé par son épiscopat, qui multiplie lui aussi des appels à la paix. Même les évêques les plus conservateurs, proches des valeurs MAGA, se sont montrés critiques de la guerre en Iran et au Liban. Les relations sont à ce point dégradées entre les États-Unis. Excusez-moi, je suis sur un historique. Il était bizarre ton message, Emmanuel Macron, là. J'ai Emmanuel Macron dans le chat. Il faut que tu contextualises un petit peu, quoi. Donc, les relations sont à ce point tendues que un rendez-vous du nonce apostolique, donc l'ambassadeur du Vatican aux États-Unis au Pentagone en janvier, relayé par un magazine qui s'appelle The Free Press, défraye la chronique depuis quelques jours. D'après différents médias américains, le sous-secrétaire à la Défense, Eldridge Colby, aurait convoqué Christophe Pierre, le diplomate du Vatican, pour lui expliquer que l'Église catholique devait prendre le parti des États-Unis. Donc tu dis pourquoi ? Écoutez, prévenant que son pays, donc les États-Unis, avait le pouvoir militaire de faire ce que bon lui semble. C'est le sous-secrétaire américain à la défense qui aurait déclaré ça aux représentants du Vatican. La nature hostile du rendez-vous a été démentie par Washington et par Rome, mais plusieurs médias rapportent de sources anonymes qui corroborent les tensions. Sur X, le père Antonio Spadaro, jésuite proche du pape François, a reconnu que la rencontre au Pentagone était inhabituelle. Oula, t'as pris un apéro, Emmanuel Macron, ou quoi ? Jude Evans a affirmé ne pas être au courant. Certains dans le clergé américain... Elle est bizarre cette phrase, hein, Donc pour ceux qui nous écoutent en audio, je ne suis pas en train de dire au président Macron, le président de la République, qu'il a pris un apéro à 10h40. C'est quelqu'un qui, dont le pseudo est Emmanuel Macron dans le chat. avant de me faire une petite sauce. Jed Evans a affirmé ne pas être au courant. Certains dans le clergé américain espèrent que la foi catholique du vice-président et celle du secrétaire d'État Marco Rubio les pousseront à être réceptifs à ces messages de l'Église. Voilà pour l'histoire. Je vous lis un petit peu et on enchaîne et on va dans les trois d'Hormuz. Ils mettent la pression au Vatican maintenant. Exactement, Diesel. Tu as tout compris. Genre, ils menacent d'envahir le Vatican. Alors, c'est ce que j'ai cru dans un premier temps. Non, je pense pas que c'est aussi débile. Je pense que c'est plus... avec notre armée, on fait ce qu'on veut au niveau international, quoi. Le Venezuela, on fait ce qu'on veut. L'Iran, on fait ce qu'on veut. Le Groenland, si on veut, on y va aussi. Enfin, c'est plutôt ça, je pense. Comme tu disais hier, on va se réveiller, on se rendra compte que tout cela n'existe pas. Oui, j'avoue. Oui, tout à fait. Merci à mon slip. L'horlogerie, ouais. Il y a un salon qui vient d'ouvrir en Suisse. Voilà. Bon, alors, à demain, hein, pour de nouvelles dingueries. Voilà. Mais c'est fou, il y a une espèce de d'accélération quand même. Je vous rappelle qu'avant son premier mandat, certains médias américains, certains journaux américains, avant qu'il soit élu la première fois, refusaient de traiter de l'actualité du candidat Trump dans les pages politiques. Comme c'était un ancien animateur de télé-réalité et donc businessman. Certains journaux un peu de qualité aux États-Unis traitaient de Trump dans les pages divertissement. Voilà. Partant du principe que jamais les Américains allaient élire une telle personne à la Maison Blanche. Voilà. Et aujourd'hui, X années après, entre-temps, il y a eu un mandat interrompu par un mandat de Biden, et puis là, on est dans le deuxième à la moitié. En fait, on revient à ce personnage finalement. Dont on se dit, mais à quel moment ce gars devient président, quoi. Sauf qu'il est devenu deux fois. Voilà. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, peut-être dès demain. Donc Trump toujours maintenant, mais la guerre en Iran, parce que vous vous demandez peut-être où on en est de la guerre en Iran. On fait le point sur ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz. Let's go. Alors, hier, on s'était déjà pensé sur cette info. Donc, les États-Unis et Israël décident de lancer un conflit contre l'Iran. Conséquence de ce conflit, les pays de la région, notamment les pays du Golfe et leur économie, sont frappés par les missiles et les drones iraniens. Et le détroit d'Hormuz, par lequel transite une part non négligeable du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié, est bloqué. Quasi bloqué. Puisqu'il y a quand même quelques navires qui passent, les navires iraniens. C'est le paradoxe de ce conflit. Le pétrole iranien ne s'est jamais aussi bien vendu. Voilà. Et puis, de pays considérés comme amis, dont les supertankers passent également. Et Trump a décidé, donc, on en parlait hier, que ce n'était pas possible. Donc, sa réponse au blocage du détroit d'Hormuz de Trump, c'est moi aussi, je vais bloquer le détroit d'Hormuz, lisons les infos. Trump fait monter la pression dans les trois d'Hormuz, faute d'avoir obtenu la capitulation de Téhéran sur la question du nucléaire. Le président américain veut organiser un blocus maritime des ports iraniens, ce qui pourrait mener à une nouvelle escalade militaire. Correspondance à Washington de Piotr Smolar, dont on apprécie les articles ici. Voilà à quoi ressemble, écrit le journaliste, un piège que l'on tend à soi-même. Trump a décidé d'organiser un blocus maritime des ports iraniens dans le détroit d'Hormuz pour empêcher le contrôle de cette artère cruciale par l'Iran. Une voie où les navires circulaient librement avant que les États-Unis et Israël n'attaquent ce pays le 28 février. Ainsi se résume la situation inflammable, sans issue évidente, après l'échec des premières négociations bilatérales de haut niveau à Islamabad au Pakistan. Le Pakistan qui essaye de créer un cadre pour qu'on sorte de cette guerre via des négociations entre Américains, Israéliens et Iraniens. Dans la foulée, Trump a annoncé sur son réseau Truth Social que les États-Unis allaient imposer un blocus dans le détroit convoité, dénonçant l'extorsion mondiale mise en œuvre par Téhéran, ce qui n'est pas faux. Avec la menace de mines sous-marines et l'imposition d'un droit de passage, le président américain explique que le Pentagone va désormais empêcher les entrées et les sorties du détroit des navires ayant accosté dans un port iranien. Ceux en simple transit ne seraient pas concernés par ce blocus qui commencera lundi à la mi-journée. Tout lundi, on est quel jour? Mardi. C'est un article qui a été écrit hier après-midi, donc c'était hier. Les bâtiments dont les propriétaires ont tenté d'acheter le droit de passage auprès des autorités iraniennes seront punis. Toutefois, il est difficile d'imaginer sérieusement, dit Piotr Smolar, un arraisonnement américain, imaginez la dinguerie, d'un navire chinois transportant du pétrole iranien. Imaginez, attendez, tout est possible hein, désormais. Imaginez un navire chinois transportant du pétrole iranien, voilà, arraisonné, voire même frappé par les États-Unis, poup, 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 la petite tension dans le détroit d'Hormuz. Voilà. Le journaliste dit que c'est impossible, surtout à un mois de la visite officielle de Donald Trump à Pékin. Ce qui est bien avec Trump, c'est que on peut. Bah, tout est possible. L'opération nettoyage démarre. La marine américaine va lancer une opération de déminage du détroit. Des drones sous-marins devraient être déployés à cet effet. Okay. Samedi, l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central.
Quoi?
Comment ça? Mais pas du tout. Mais c'est un acteur. Mais... Bradley Cooper. Mais il a changé. Alors ceux qui nous écoutent en audio, je suis allé voir des... faire une... je fais une recherche sur Google Images et Bradley Cooper, c'est un acteur, c'est un beau gosse. Incroyable. Et ben maintenant, il est amiral. Pas du tout, bien sûr, c'est pas le même. Donc c'est Brad. Mais Brad, c'est un député de Bradley, je pense, non? Bref, l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central, qu'est-ce qu'il est con ce vieux Samuel Etienne à faire des blagues de daron là. Chef du commandement central a expliqué que l'armée avait entamé le processus d'établissement d'un nouveau passage qui serait bientôt partagé avec l'industrie maritime. Bon, ça dégage le passage. D'autres pays devraient participer à cette opération de sécurisation, dont le Royaume-Uni, affirme Donald Trump. Donc, le Royaume-Uni va participer à cette opération de sécurisation de déminage. C'est ce que dit Trump. Le problème, c'est que Londres a démenti hier. Non, c'est pas vrai. Et voilà. Le milliardaire entend priver le régime théocratique de son principal atout dans les négociations, de son élément clé de chantage. D'une certaine façon, il s'agit du scénario du Venezuela, mais à l'envers. Le 16 décembre 2025, Trump avait annoncé un blocus de tous les tankers transportant du pétrole du Venezuela, quelques semaines avant l'opération militaire foudroyante pour enlever Nicolas Maduro. Cette fois, le président américain choisit l'étranglement économique de l'Iran, en raison des limites atteintes par l'opération Fureur Épique, de l'absence de victoire à portée de main et de l'épuisement inquiétant des stocks américains de munitions. Au cœur de ce virage figure la conviction de la vulnérabilité du régime iranien de son court-circuit imminent, faute de rentrée d'argent. Je traduis, si Trump fait ça, c'est qu'il est persuadé que le régime iranien est sur le point de craquer. Voilà. Alors, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Cette initiative de Trump témoigne aussi d'une prise de conscience tardive, celle des conséquences de la guerre sur le prix de l'énergie. C'est notamment ce qui est reproché au président américain, c'est de ne pas avoir anticipé les conséquences sur l'économie. Il y a beaucoup d'experts qui disent « mais c'était sûr que le détroit d'Hormuz allait être bloqué, c'était sûr que l'Iran allait frapper les pays du Golfe ». Bon, après, c'est toujours facile de le dire après ça, mais bon. Malgré leur autosuffisance, les États-Unis ont vu le prix de l'essence à la pompe bondir de près de 40% depuis le début de la guerre. Les Américains qui aiment bien leur bagnole, ils n'aiment pas trop quand le prix de l'essence augmente de 40%. Quoi. Je vous rappelle qu'on est à pas très loin d'élections aux États-Unis, ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Une catastrophe dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre. L'incohérence de l'administration américaine est flagrante. Le 20 mars, écoutez ça, c'est le passage le plus intéressant de l'article. Voilà, ça c'est intéressant. L'incohérence de l'administration américaine est flagrante. Le 20 mars, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, annonce une levée temporaire de 30 jours des sanctions visant les exportations de pétrole iranien. Merci Léana Escri. Pour permettre la vente de 140 millions de barils déjà en haute mer.
Quoi ?
Les États-Unis lèvent les sanctions sur le pétrole iranien. Pourquoi ? Bah, pour faire baisser la tension sur les cours, qui augmente notamment le prix à la pompe, hein, notamment pour les States. Mais le problème, c'est que ça, c'est de l'argent pour Téhéran. Pour financer quoi ? Son effort de guerre. Le mec est en guerre contre un pays, à un moment, il prend une décision qui va envoyer un max de pétrodollars vers l'ennemi pour qu'il puisse acheter plus de missiles et de bombes. Pas malinx le lynx quand même. Soit une manne pour Téhéran accordée pour réduire la tension sur le marché de façon ponctuelle. Sur la chaîne CBS dimanche, le sénateur démocrate Mark Warner critiquait cette approche focalisée sur des solutions unilatérales à court terme et le rôle significatif de la Chine en soutien de l'Iran. Le fait que l'administration Trump relâche les sanctions sur le pétrole russe, c'est 10 milliards de dollars pour Poutine. Ah oui, parce qu'il a fait la même chose pour la Russie. Voilà. Donc, là aussi, vous savez que les États-Unis financent une partie de l'effort de guerre ukrainien. Donc, le gars a aussi levé les sanctions contre le pétrole russe, qui va faire des recettes supplémentaires pour l'économie russe, pour financer son effort de guerre contre l'Ukraine, alors que les États-Unis dépensent par ailleurs pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. Le génie. Le génie. Donc, et le sénateur ajoute, mais encore plus dingue, il y a le fait qu'en levant les sanctions sur le pétrole iranien en mer, nous avons littéralement financé le gouvernement iranien 14 milliards de dollars qu'ils utilisent pour acheter des armes auprès de la Chine et ailleurs pour attaquer nos troupes, dans mon esprit, dit-il. C'est de la folie. Le paradoxe du blocus dont menace Trump réside dans le risque d'une aggravation de la situation. Comment obtenir le rétablissement de la confiance pour les assureurs des navires si la marine américaine devient la cible d'attaque iranienne dans le détroit, rendant ainsi le cessez-le-feu caduc. Je lis la suite du papier sur l'échec des négociations. Alors, il y a un long développement très intéressant sur pourquoi la vingtaine d'heures de négociations entre les représentants des États-Unis et de l'Iran ont échoué à Islamabad au Pakistan. Hein. Alors Trump, il dit, à un moment, il a dit, mais les négociations se passent très très bien, on a quasiment eu gain de cause sur tout, sauf sur le nucléaire. Or moi, je veux tout. Hein. Je veux tout ce que je demande, je veux l'avoir. En somme, écrit Le Monde, Téhéran devait renoncer à tout, tandis que la délégation américaine refusait d'accepter une libération immédiate des milliards de dollars de fonds iraniens gelés dans plusieurs pays, dont la Corée du Sud. Le Monde qui écrit « Le principe d'une négociation diplomatique réside dans l'art du compromis, la capacité à se contenter de moins qu'on espérait, parce que l'alternative, la guerre, serait moins séduisante. Mais l'administration Trump croit à ses propres slogans, à ses formules expéditives, à la division du monde entre chasseurs et proies. Dans le Washington Post, dimanche, le journaliste vétéran David Ignatius ne disait pas autre chose. L'Iran est aujourd'hui affaibli malgré tout son brio, estiment les responsables américains. Le pays connaît la version militaire d'un confinement Covid-19, avec peu d'activité économique après 40 jours de guerre. Trump prévoit désormais de resserrer son étreinte sur l'économie à la manière d'un combattant de l'UFC, donc c'est du MMA si je ne dis pas de bêtises, maintenant son adversaire en position d'étranglement attendant qu'il l'abandonne. Trump semble persuadé que l'Iran va craquer. Jill Evans, qui est le vice-président américain qui était à Islamabad, et la délégation américaine ont donc quitté précipitamment Islamabad à la surprise des Iraniens qui s'attendaient à une simple pause. Hein. Ah, c'est du MMA hardcore l'UFC, c'est un truc... je suis pas un spécialiste. C'est ça ? Ok. Alors, les Iraniens semblent avoir été surpris, qui s'attendaient juste à une pause dans la négociation, alors que les Américains sont partis. Ouais. D'ailleurs, Trump a assisté à ces combats. On en parlait hier. Voilà. Donc, cet article du Monde nous raconte que l'une des raisons de l'échec des négociations pour tenter de mettre fin à la guerre, c'est l'intransigeance de la partie américaine qui est venue avec une série de revendications est manifestement pas dans un état d'esprit de lâcher quoi que ce soit. Voilà. À suivre. Je vous lis et on enchaîne. Salut Alpacalypse. À ce soir. Il y a live ce soir à 20h. Hein. Sachant que il y aura une soirée de combat à la Maison Blanche en juin. Let's go. L'UFC est une organisation en ligue de MMA, tout comme la Ligue 1 pour le football, pas de stigmatisation de ce sport SVP. Ah bah ça stigmatise pas le sport ici. Hein. C'est pas l'objet de l'article du Monde d'ailleurs. Voilà. Donc évidemment, on va pas. Ce conflit se poursuit. On va le suivre. Voilà. On verra dans les prochains jours ce qui se passe. On est dans 15 jours de cessez-le-feu. Hein? Est-ce que ce cessez-le-feu va tenir? Est-ce que pendant ces 15 jours de cessez-le-feu, les parties vont se rapprocher pour, dans ces négociations de paix pour trouver une issue au conflit? On le verra dans les prochains jours. Donc en gros, ils parlent de négociations, mais ce qu'ils veulent en réalité, c'est plutôt une capitulation. Et a priori, c'est pas trop l'état d'esprit du régime islamique, dont on dit que depuis que ses principales têtes sont tombées, notamment le guide islamique Ali Khamenei, le régime se serait encore radicalisé, hein, sous la houlette des gardiens de la révolution. Ok ? On enchaîne ? À suivre. Maintenant, on va en Hongrie. Alors, en Hongrie, on en a parlé hier, hein, puisque les articles n'étaient pas parus déjà, mais on avait les résultats des élections en Hongrie, avec ce tournant, donc la chute de Viktor Orban, qui était au pouvoir depuis 16 ans en Hongrie, et ce régime, alors qualifié par certains d'illibéraux, de conservateurs ou d'extrême droite, en tout cas, qui était le régime vers lequel tous les yeux des partisans de l'extrême droite européenne était tourné depuis des années. Voilà. Et ce régime-là, il est tombé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc, dossier dans Libération sur le sujet. C'est parti. Vent d'ouest sur Budapest, parce que du coup, la Hongrie, cette Hongrie-là, avec le futur Premier ministre Péter Magyar, est plus pro-européenne. Vous savez que Viktor Orban brillait notamment par le blocage quasi systématique qu'il imposait à l'Union, notamment avec un plan d'aide de prêt à l'Ukraine qui était bloqué et uniquement par la Hongrie depuis quelque temps. Voilà. Donc d'où ce titre, Vent d'Ouest sur Budapest, et je lis, après 16 ans de pouvoir illibéral, I-2-L-I-B-E-R-L-R-L, on va redéfinir dans un instant ce que c'est, du pro-russe Viktor Orban, voilà. La large victoire du conservateur, qui est un conservateur aussi, hein, donc c'est toujours à droite, hein, mais avec un tropisme moins anti-Union européenne. Aux législatives dimanche marque le retour de la Hongrie en Europe. Illibéral, alors qu'est-ce que c'est l'illibéralisme ? Pour faire très très simple, l'illibéralisme, c'est un régime dans lequel il y a encore des élections. Magyar, c'est un ex du parti d'Orban à la base. Oui, Cyril, c'est ce qu'on a expliqué hier, effectivement, oui. L'illibéralisme, c'est un régime où il y a encore des élections, voilà, donc un semblant de démocratie, mais dont la politique au quotidien, par rapport aux libertés individuelles, aux droits des minorités et sur d'autres sujets, nous emmène vers un régime autoritaire. Voilà. Donc apparence de régime démocratique et pratique de régime autoritaire, pour faire très très simple, l'illibéralisme, c'est ça. Démocratie verrouillée, Brex, exactement. Alors lisons l'article de Libé. Après Orban, la difficile remise en état, en 16 ans de gouvernement illibéral, le Premier ministre sortant a noyauté les institutions, réécrit la Constitution, changé le paysage médiatique, et Libération nous explique que la tâche de son successeur, Péter Magyar, s'annonce ardue. Let's go. C'est une correspondance. Non, c'est une envoyée spéciale de Libération qui s'appelle Nelly Didlo, qui est partie à Budapest. Et qui écrit: rien n'a encore changé en Hongrie, mais tout est déjà différent. Dimanche, le pays a dit au revoir à Viktor Orban dans une nuit de fête qui a traversé Budapest après 16 ans de pouvoir. Hier matin, on avait des gens qui vivent en Hongrie qui nous racontaient un peu tout ça. Après 16 ans de pouvoir, de dérive antidémocratique, de kleptocratie, le Premier ministre et son parti du Fidesz ont été très sévèrement battus par le TISA, le parti de Peter Maghiar. Dans la capitale, l'ambiance nocturne tenait plus de la victoire en Coupe du Monde de foot plutôt que d'une journée d'élection. Partout dans les rues, des groupes déferlaient, drapeaux hongrois à l'épaule, noués autour du cou, on se regroupait autour d'une enceinte devant les bars pour crier des sales Fidesz ou les Russes à la maison, la voix cassée par l'excitation. Le Danube portait les pulsations de la musique des quais jusqu'au pont dont des crappes de jeunes ont escaladé les haubans sur les boulevards, les voitures klaxonnaient et pétaradaient à tout va, imitées même par les taxis. La fête, quoi. Mais pour Peter Maghiar, qui va devenir le Premier ministre à 45 ans, à peine plus de 2 ans après avoir fait défection du Fidesz, il était avant dans le parti d'Orban, les réjouissances seront de courte durée. La tâche est immense, a-t-il reconnu dimanche soir. Au fil des 4 mandats consécutifs, la Fidesz a profondément affaibli la démocratie hongroise. Les tribunaux ont été mis au pas, les médias publics transformés en organes de diffusion du parti, les ONG placées sous étroite surveillance, les universités mises sous tutelle du pouvoir, qu'est-ce que c'est un régime illibéral, on est en train de l'expliquer, et les droits des personnes LGBT bafoués. Maghiar et le TISA ont promis en réponse de mettre fin au régime, de restaurer la constitution et de guérir les plaies de la Hongrie. Alors ils peuvent pour cela compter sur une force essentielle, puisque la victoire de ce parti TISA a été très vaste, hein. Et il a aujourd'hui une majorité des 2/3 au Parlement. Elle serait nécessaire pour revenir sur les modifications constitutionnelles adoptées par le Fidesz. Cette supermajorité est un immense pouvoir. Elle donne pratiquement les moyens de faire adopter une nouvelle constitution en une semaine. Mais tout l'enjeu pour Maghiar sera de limiter ses propres pouvoirs, explique un professeur de sciences politiques. Lors d'une longue conférence de presse, le futur Premier ministre a promis qu'il restaurerait l'état de droit, mais sans enfreindre l'état de droit. Maghiar n'est pas un progressiste pour autant. Ah non, Barakine, tu as raison. Ça, on l'a dit hier. Ça reste un conservateur. Mais ouais, un peu moins à droite, quoi. Un peu moins par là. Rappelons que parmi les personnalités politiques françaises très fans de Viktor Orban, et c'est très factuel, hein, il n'y a pas d'éditorialisation de mon propos, hein, qu'il a soutenu à de nombreuses reprises, qui s'est félicité de ses réélections, il y a Marine Le Pen. Il a pour cela appelé le président de la République, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général et bien d'autres officiels nommés par l'ancien pouvoir à démissionner. Les Hongrois ont voulu un changement de régime. Le message des urnes a été clair, les tenants du système devraient partir de leur propre volonté plutôt que d'attendre qu'on les extirpe de leur poste, a-t-il lancé. Pistelli me dit le FN est dans le groupe d'Orban au Parlement européen d'ailleurs. Ok. Le RN, hein, tu dis le FN, mais c'est le RN maintenant. Hein. Merci Hartmann pour le Prime. Sachant que c'est très très différent. Hein. FN, RM, RN. Non, c'est une blague, c'est la même chose. Pardon, c'est une plaisanterie. Si les dirigeants des institutions publiques ne se soumettent pas à son vœu pieux, la tâche va se compliquer. Merci Hartmann, merci Chami, merci Adèle. D'autres dérives seront difficiles à inverser. Orban et ses proches ont œuvré pendant des années, donc 16 ans de pouvoir quand même, hein, pour placer des fidèles dans toutes les institutions. Ainsi, la mise sous tutelle des universités s'est faite via leur transfert à des fondations privées où ont été nommés des proches du Fidesz. L'État hongrois s'est retiré de leur gestion, il sera difficile de l'y faire revenir. Il s'annonce tout aussi délicat de revenir sur la transformation du paysage médiatique en faveur du parti et des idées d'Orban. Le TISA a promis dans son programme le démantèlement des médias publics de propagande. Le parti entend suspendre la diffusion des informations jusqu'à ce que les journalistes travaillent dans des conditions objectives et indépendantes. Même si cette réforme pouvait être menée à bien, le problème des médias privés détenus par des fidèles de l'ancien pouvoir resterait entier. Ils possèdent un empire de radio, chaînes de télé, journaux locaux, sites internet, auxquels s'est même ajouté récemment le journal le plus lu de Hongrie. Le défi le plus dur à relever pour le futur gouvernement sera probablement celui de la corruption de haut niveau. Magyar a axé une bonne part de sa campagne sur ce thème qui fait mouche auprès des Hongrois, lassé de subir les difficultés économiques tout en assistant à l'enrichissement toujours plus grand des affidés du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça que Orbán et ses proches se seraient enrichis ? Une analyse du FT, du Financial Times, a montré que depuis 2010, une quarantaine d'entreprises, propriétés de 13 proches de Fidesz, ont empoché à elles seules 14% du montant de tous les contrats publics. Faudra faire une commission parlementaire là-dessus. Avant l'arrivée du pouvoir, elles en étaient à 1%. Ah ouais, elles sont passées de 1 à 14%. Ah oui, oui. Là, il y a des auditions à mener. Là. Voilà. Parmi leurs propriétaires, on retrouve le gendre de l'ancien Premier ministre ou son copain d'enfance, passé en quelques années du statut de plombier chauffagiste à celui d'homme le plus riche du pays. L'argent public. Ils ont pris de l'argent public. Je vous lis pas tout le dossier, hein. Vous lirez, c'est dans Libé. C'est complet, c'est riche, il y a plein d'infos. Alors l'Europe quand même. Peter Magyar a construit une partie de sa victoire en prenant le contre-pied de son prédécesseur sur la relation de la Hongrie au monde. Notre place est en Europe depuis au moins 1000 ans, le restera, a-t-il tonné dans son discours de victoire, alors qu'Orban faisait campagne contre Bruxelles depuis plus d'une décennie. Le TISA a une volonté très claire de retrouver une relation normale avec l'Union européenne. Ils veulent que la Hongrie soit à nouveau considérée comme un partenaire fiable. Le futur gouvernement a tout intérêt à soigner ses relations avec Bruxelles. Plus de 20 milliards d'euros de fonds européens gelés suite aux dérives autoritaires du Fidesz pourraient être débloqués. Parce qu'à un moment, Bruxelles avait dit « Attends, vous êtes gentil à tout bloquer, mais on va arrêter de vous financer. » quoi. Débloqué si la Commission estime que les réformes du nouveau gouvernement sont suffisantes. C'est ce qui s'est passé par exemple pour la Pologne après l'éviction du pouvoir des nationalistes conservateurs du PiS en 2023. En signe de bonne volonté, Magyar réservera l'une de ses premières visites officielles à Bruxelles. L'Europe ne doit pas pour autant s'illusionner. La Hongrie n'a pas changé du tout au tout en une nuit d'ivresse. Magyar n'est ni le messie que sa campagne a mis en scène, ni l'euro-béat que le Fidesz a tenté de dépeindre. Dans ces meetings, on agitait bien plus volontiers des drapeaux hongrois que des étendards européens. Hein ? Pour sa première conférence de presse en tant que futur Premier ministre, il n'a pas caché son inclinaison pour une belle forme de populisme. Hein ? Le TISA, a-t-il dit, continuera à prendre des décisions avec le peuple en l'impliquant le plus possible. Son parti est clairement de droite, et sur certaines questions comme l'immigration, il ne dépareille en rien de l'ancien parti du Fidesz. Au cours des 4 prochaines années, il sera difficile de faire entendre des voix discordantes du credo conservateur. Pour la première fois de son histoire, le Parlement hongrois sera intégralement à droite. Seuls 3 partis vont y siéger, donc le TISA, donc la nouvelle droite au pouvoir, le Fidesz, donc l'ancienne droite au pouvoir, et la formation résolument d'extrême droite, Mi Azonk. Ce qu'il restait de libéraux et de sociodémocrates se sont rangés derrière le TISA, ou ont été balayés par sa victoire écrasante. Voilà. Je vais vous lire l'édito de Damdam Mostafavi. Je vois dans Libé, mais je vous lis d'abord un petit peu. Je ne sais pas si on PIS ou PIS, l'ancien parti au pouvoir en Pologne, c'était PIS. Je ne sais pas si on dit PIS ou PIS. PIS, on dit PIS ? Ok. On dit PIS ? D'accord. Ok. Je vous lis, hein. Je suis pas en train de dormir. Hein. Coucou Alexandra. Ah ouais, ça va être une super émission ce soir. L'ambassade d'Iran qui fait une parodie de Voyage Voyage avec Trump qui chante blocage blocage. Je suis pas sûr là d'aller sur ça tout de suite là. Je suis pas sûr là. On veut voir ça, me disait elle. Non 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 non. Non après on va pas non plus, on va pas aller se boulotter toute la com. Tu devrais Samuel, c'est magnifique. Ouais, on va pas se bouffer la com de guerre de l'Iran non plus. Hein? Non non non. Blocage, blocage. Non, non, non. Ça, puis ça doit être fait avec de l'IA en plus. Alors moi, je ne. C'est quoi la phrase? Je ne cautionne. Non, c'est pas. Je cautionne pas. Je ne souscris pas. Non. Comment on dit? Les deux dans leur voiture là. Je ne contracte pas. Je ne contracte pas moi. Bien sûr que c'est de l'IA. Avec Trump, on sait jamais. Hein. Trump peut chanter Desireless. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Il y a déjà Trump qui fait son... Ouais. Calmons-nous. Hein. C'est sérieux tout ça. Hein. Non mais... Je veux voir Trump chanter. Je regarde. Blocage. Non, c'est pas possible. Le Figaro en parle, mais on vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse. Le Figaro en parle. Le Figaro a fait un article. Une vidéo. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Une vidéo générée par IA, publiée par une ambassade iranienne, détourne Trump en chanteur des années 80 sur le titre Voyage, voyage de Desireless. Mais là. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Mais. Vous savez que quand j'étais petit, on pensait que l'avenir serait des voitures volantes, à manger pour tout le monde, des médicaments pour tout le monde, pour soigner les maladies. Et en fait, le futur, c'est des guerres avec des clips d'IA. Là. Regardez-moi ça. Oh putain. Mais t'as un truc qui veut pas se fermer en plus quoi. Mais c'est pas possible. Mais je. C'est fini les pubs là. Putain, j'ai du Trump partout en voiture, voilà. Je laissez abandonner moi sur le bas côté de la route, je vais vous ralentir, je ne peux plus là. Merci pour Danirio, merci Hartman, merci Chami, merci Adèle, merci tous les quatre. Mais vous imaginez une civilisation extraterrestre qui serait en train de nous observer là? Tiens, on vient de découvrir une civilisation là, aussi développée que la nôtre. Non, pas du tout, ils sont au tout début là. Les mecs se font la guerre non-stop. Et alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils font des clips et tout. Oh là là. Tu m'étonnes. Il y a Mango. Il y a Mango Loco qui dit tu m'étonnes qu'ils veulent pas nous contacter. Ouais. Incroyable. Moi je bon. C'est pour ça aussi que je fais du... Parfois, je fais un peu de divertissement aussi. C'est pour oublier, tu vois. Ce soir, on va changer les idées. Ce soir, normalement, on parle pas de tout ça. Hein. Ce soir, on va rigoler là, avec Réponse Cache 2. Là, ça va être de la rigolerie un petit peu avec les copains. Là. Venez à 20h. En vrai, ça va nous changer un petit peu. Le. Voilà. Pendant 3 heures, on va parler d'autre chose. Promis, je vous parle pas de Trump ce soir. Promis. Allez, je reviens à l'édito. Voilà, de Adam Mostafavi dans Libération qui nous parle de joie carrément à propos de ce qui vient de se passer en Hongrie. Sur les rives du Danube dimanche, c'est une ode à l'Europe qui s'est jouée à tue-tête. Cette Europe honnie par le vice-président américain J.D. Vance qui s'était déplacé, c'est vrai que j'avais oublié de vous le rappeler, c'est la semaine dernière à Budapest. Trump a quand même envoyé son vice-président pour soutenir Orban pour sa réélection. Parce que Orban était soutenu à la fois par Trump et par Poutine. Et par Marine Le Pen, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Décidément, Vance se mue de plus en plus en oiseau de mauvais augure partout où il passe. Son voyage suivant, consacré aux négociations irano-américaines au Pakistan, s'étant soldé par un échec. Comme à Washington, la victoire du conservateur Peter Magyar, a été accueillie fraîchement à Moscou. Un récent scandale a révélé que le ministre des Affaires étrangères hongrois aurait livré des informations confidentielles de l'UE à son homologue russe, Sergueï Lavrov. Quelqu'un m'en parlait dans le chat tout à l'heure de ça. Les interventionnistes russes et américains, complètement alignés, n'ont pas réussi à abattre la plus grande force qui soit, la voix du peuple, preuve que lorsqu'il se mobilise, un collectif fort peut submerger les influences extérieures. Près de 79% des 7,5 millions d'électeurs en Hongrie ont envoyé un message clair. La participation était gigantesque, on était à près de 80%. Envoyer un message clair au reste de l'Europe et du monde, la démocratie reste un moteur puissant. L'aspiration et la liberté peut et doit être défendue. Orban avait pourtant mis toutes les chances de son côté, façonnant le système pour pouvoir l'emporter, noyautant tous les contre-pouvoirs, nourrissant un système oligarchique qui lui était favorable et surtout passant l'essentiel de son temps à désigner l'Europe comme ennemi du pays. Cela n'a pas suffi à convaincre les Hongrois. La joie qui s'exprime à Budapest sera-t-elle suivie de lendemain qui chante ? 16 ans de pouvoir d'Orban auront laissé sur le pays une marque sans doute indélébile, une Hongrie minée par la corruption. On parlait des entreprises tout à l'heure, des copains là qu'on fait plein d'argent. Biberonnée au discours pro-russe, acclimatée à ce mot comme taillé pour le type de gouvernement d'Orban, l'illibéralisme. Ah, mais alors, je vois beaucoup de blagues dans le chat, moi je n'avais pas les rêves de ça. Bilan, Lazareth me dit, bilan de J.D. Vance, il rend visite au pape précédent, le pape meurt dans la foulée, Vance négocie avec l'Iran, les négociations durent moins de 12 heures, moins de 20 heures. Vance soutient Orban, Orban perd largement, qu'il continue sur sa lancée. Papillon de lumière, Vance, il a rendu visite au pape François, est décédé, il rend visite à Orban, il perd les élections, n'ouvrez pas votre porte à Vance. Ok. Peut-être que si, du coup. Pour Peter Magyar, qui reste aligné sur la politique de son prédécesseur sur plusieurs points clés comme l'immigration, sans parler de l'inconnu concernant son soutien à l'Ukraine, remettre la Hongrie sur des rails sera un travail de longue haleine. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer Vance chez des gens? Genre, c'est un peu un Death Note, c'est ça? Incroyable. C'est fou, ça. Le Vance Note. Ouf. Alors, c'est pas fait exprès. On parlait du soutien du RN à Orban, là, et je n'ai pas choisi cet enchaînement, voilà, c'est le hasard de l'actualité, et on a plusieurs papiers ce matin dans la presse sur à quoi joue le patronat français, une partie du patronat français pour être tout à fait précis, avec le RN, on a un papier dans Libération et on a un papier dans La Croix, une tribune dans La Croix d'un patron justement qui n'est pas tout à fait d'accord avec tout ça. C'est parti. RN, à quoi joue le patronat. Le patronat français pour partie, hein, marionnettiste d'une extrême droite consentante. Voilà, Thomas Legrand, chroniqueur politique, Libération, c'est parti. Que veut nous dire Thomas Legrand ? Il va nous parler d'un dîner qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. De nombreux grands patrons français, certains des plus fortunés, sont en train de choisir d'accompagner l'extrême droite au pouvoir, avec ou sans la droite. Bien au-delà des Sterrin et autres Bolloré, promoteurs actifs et revendiqués de la réacosphère, c'est une bonne partie de l'élite économique et financière française qui défait pierre par pierre le barrage contre l'extrême droite dressé depuis 45. Un déjeuner est ainsi prévu le 20 avril, c'est dans 6 jours, entre les membres du bureau exécutif du MEDEF et Bardella. Vous allez me dire, ouais, bon ben, sauf que c'est une première. Ça n'est jamais arrivé. Une première pour un dirigeant du parti à la flamme. C'est la première fois qu'il y a un déj, après je vous parlais du dîner, entre le MEDEF et les représentants du RN. Des patrons modérés ou des personnalités libérales, patronales libérales, comme Alain Minc, s'en inquiètent et se disent sidérés du nombre de leurs congénères qui voient la montée du RN comme une aubaine, une opportunité à saisir pour pouvoir intervenir plus facilement sur la chose publique. Et le RN, comme reconquête, désormais choyé et respectabilisé par tant de grandes fortunes et d'héritiers, ne craignent pas de perdre ce qu'ils pensaient être un avantage anti-système. La dernière semaine, c'est là où on va parler du dîner, parce que là on parle du déj qui vient, mais il y a un dîner qui s'est déjà passé, nous a donné deux illustrations éclatantes de cette tendance finalement assez classique. Le public reportage de Paris Match, par image de Bolloré, sur l'idylle entre Jordan Bardella, voilà, et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, voilà, et un dîner de Marine Le Pen avec le gratin patronal français. Voilà. Avec l'invitation faussement discrète de Marine Le Pen chez Drouan par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, LVMH, Cyril Bolloré, fils de Vincent Bolloré, et toute la crème du CAC 40, PDG ou DG de Total Energy, Renault, Accor, AXA, entre autres, voilà, vous aviez tous ces représentants de ces grosses entreprises du CAC 40 qui étaient à ce dîner avec Marine Le Pen. On assiste, estime l'éditorialiste, à la prise en main de la dynamique de l'extrême droite française par les puissants de l'économie de ce pays. Après avoir tenté de se banaliser puis de se normaliser, le RN, pour pouvoir enfin crever le plafond de verre qui l'empêche jusqu'ici d'arriver au pouvoir, se laisse marionnettiser par les grands décideurs industriels et financiers. Mais attention, l'extrême droite contient souvent du populisme, et dans le populisme, il y a peuple, et qui dit peuple dit risque de revendication sociale. Voilà, estime Libé, pourquoi nombre de riches et de puissants s'emploient à prévenir cet enchaînement. L'idée est toujours la même depuis la révolution industrielle, c'est de divertir le peuple par la peopleisation, le faire rêver avec, par exemple, cette romance entre une princesse et le petit gars du 93, donc c'est les amours de M. Bardella. Pour ces puissances économiques, l'impératif, c'est d'éradiquer du projet lepéniste ou bardellien toute aspérité trop sociale, toute possibilité d'entrave à faire des affaires, toute norme ou idée de quelconque régulation. Ça n'est pas très compliqué, puisque le social n'est historiquement qu'un vernis pour toutes les propositions politiques autoritaires. Peu de choses ont filtré de ce repas. C'est un iPad, ouais. C'est l'iPad directement connecté Picog. Mais ce que l'on sait, c'est que Marine Le Pen était reçue dans une atmosphère amicale. Contexte, depuis plusieurs mois, les deux têtes du RN sont coachées par un aréopage de proches du milliardaire très libéral et conservateur Pierre-Édouard Sterrin. Fini l'époque dirigiste et protectionniste, le RN se revendique désormais pro-business. Marine Le Pen, si on en croit les rares indiscrétions sur le contenu de cette rencontre chez Drouan, n'était pas là pour demander à ses hôtes en bonne nationaliste de relocaliser, de prendre soin des travailleurs français, de se soucier des intérêts nationaux, plus que de ceux de leurs actionnaires internationaux. Non, elle était là, estime Libération, hein. C'est une analyse. Puisqu'on ne sait pas, dit-il aussi, ce qui s'est dit. Non, elle était là pour faire allégeance, dire du bien de l'Europe libérale et du mal des déficits sociaux. Bref, elle était là pour accéder à l'élite qu'elle a longtemps fait mine de critiquer. Pour le patron de la Maïf, ah, c'est intéressant parce que c'est lui qu'on va lire dans un instant. Pascal Demurger, qui signe une tribune dans Le Monde. J'ai mis la croix d'ailleurs. Ah non, c'est bien Le Monde. Le Monde. Le rapprochement avec le RN, pour les entreprises françaises, les patrons, est une erreur tactique autant qu'une illusion politique. Mais pour nombre de patrons du CAC 40 et autres grandes fortunes du pays, l'extrême droite semble être une divine surprise, estime Legrand. afin d'assurer l'ordre, la hiérarchie sociale et la liberté économique dans un projet sécuritaire et capitaliste. Pour cela, il faut acheter le RN. Et ça tombe bien parce que l'extrême droite est toujours, c'est une loi de l'histoire, ravie de se vendre à vil prix aux puissants. Estime Thomas Legrand dans Libération. Merci Tony Glandil. C'est une rêve de vieux, mais qu'on adore. Ah, je vois que les plus anciens du chat aiment la ref. Merci Tony Glandil. Ouais, Tony, ouais, pardon, on est obligé de faire une petite pause humour. Hein, c'était avec les nuls. Tony Glandil. Ouais, oui, obligé. Alors parce que les jeunes, vous ne connaissez pas, donc c'était les nuls, les humoristes. Qui fait une pub sur un dentifrice qui s'appelle peut-être toujours d'ailleurs Tony Gencil, le dentifrice qui soignait les gencives, et chez les nuls c'est devenu Tony Glandil, et c'est pas pour les gencives.
Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive ?
Ah là, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal.
Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça ? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles.
Qu'est-ce que tu fais ?
Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil.
Tony Glandil ?
Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton.
Je crois qu'on la regarde tous les mois, cette vidéo, sur ma chaîne. Vous m'en excusez. Voilà. Et vous avez reconnu Bigard, jeune. Le mec qui demande des conseils, c'est Bigard. Ouais. Eh oui. C'est un classique. C'est très fin. Ah oui. Bah oui, c'est fin. C'est très fin. Je viens d'arriver là-dessus, c'est bizarre. Ah, c'est de l'humour d'avant. Hein. C'est de l'humour d'avant. La pub Calgoutte. Hein ? Calgoutte ? Quoi ? Ah non, ça n'existe pas, ça. Calgoutte ? Quoi ? Genre Calgon ? Ah ouais, ça existe. You have to see your friends in life. Attends, je vérifie d'abord. Je vérifie, moi je vérifie.
Quel goût ? Quel goût ? Dentifrice au fluor.
Je comprends pas trop le sketch là. Je comprends pas trop. Mais Calgoutte, c'est quoi la blague ? Calgoutte. C'est quoi la vanne ? Calgoutte. Oui, Calgon, ouais, mais Calgoutte. Pourquoi il l'appelle Calgoutte ? Là, je l'ai pas, là. Ouais, je suis pas sûr de celle-là. J'y vais bosser dessus. Ouais. Ah, c'est pas Calgon, c'est Colgate. Ah ouais. Foutre à Calgoutte ? Je sais pas. Je l'ai pas. Alors, pardon, je reviens à mes oignons. Donc, vous avez Thomas Legrand qui estime qu'il y a une partie du patronat français, vous l'avez compris. Qui essaie de draguer le RN, de se préparer à son éventuelle arrivée au pouvoir. Et vous avez un patron français, qui est le patron de la MAIF, donc Mutuelle Assurance, Pascal Desmurger, cité par, à l'instant, Libération, et qui, dans Le Monde, signe une tribune, c'est-à-dire il donne son avis sur cette histoire, et il dit « Pour les patrons, le rapprochement avec le RN est une erreur tactique et une illusion politique. » Le directeur de la Maif annonce sur les risques pour les dirigeants d'entreprise des accommodements avec un parti profondément anti-républicain. Quelqu'un dans le chat tout à l'heure, je l'ai lu, disait « mais je vois pas où est le problème ». Les entreprises, elles ont raison de discuter avec les politiques, quels qu'ils soient. Hein ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Lisons ce que dit ce patron français. L'anticipation de l'échec conduit toujours à son avènement. Ce qui se passe en ce moment entre une part croissante du monde économique et le RN relève de cette capitulation. Les digues s'affaissent, des rapprochements s'organisent, alors même que la plus grande partie du patronat considère toujours les propositions de l'extrême droite comme funestes. Autrefois unanimement distants, de plus en plus de chefs d'entreprise franchissent désormais la ligne et répondent aux sollicitations des leaders du RN, trop heureux de recevoir à chacune de ces rencontres une marque supplémentaire de respectabilité. La justification est toujours la même, le souci de former ce parti, compte tenu de son inexpérience et de la faiblesse de son programme économique dans l'hypothèse d'une victoire électorale à la présidentielle. Ses patrons le font rarement par adhésion aux idées de l'extrême droite, tant ils savent que les proximités internationales douteuses du RN menaceraient notre souveraineté et combien son aspiration est profondément anti-républicaine, incarnée par son projet de réforme constitutionnelle en faveur de la préférence nationale. Ils mesurent toutes les difficultés qu'ils auraient à piloter leur entreprise dans un monde où l'aveuglement et la radicalité remplaceraient le dialogue, où l'ostracisation minerait les collectifs, où l'idéologie supplanterait la raison. Un monde où l'aveuglement et la radicalité remplaceraient le dialogue, où l'ostracisation minerait les collectifs, où l'idéologie supplanterait la raison. Mais beaucoup le font avec le souci de limiter la casse, ou plus cyniquement, pour quelques-uns, de ménager leurs arrières. Bref, on s'accommode, on se prépare, on fait preuve d'indulgence. C'est pourtant une erreur tactique, autant qu'une illusion politique, estime-t-il. Ce rapprochement sert avant tout les intérêts d'un parti qui a un besoin vital de renforcer sa culture économique et de consolider ses réseaux pour asseoir sa légitimité. Il y a Lunados qui dit tout ça de la spéculation. Alors pour le coup, qu'on soit d'accord ou pas avec l'analyse, ça c'est une analyse, le fait que la rencontre à venir, le déjeuner entre Bardella et le MEDEF, soit la première rencontre ever entre la direction du MEDEF et un représentant du RN, c'est une info. Ça, c'est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Le fait qu'il y ait eu ce dîner entre Marine Le Pen et ses grands représentants du CAC 40, ça aussi, c'est nouveau. Et ça, c'est pas de la spéculation. Donc, il y a un changement de comportement de certaines entreprises vis-à-vis du RN. Donc là, il y a zéro spéculation. Ça, c'est un constat factuel. Après, l'analyse que c'est bien ou pas bien, ça, c'est autre chose. Mais sur les faits, il n'y a pas de spéculation. Quelqu'un qui m'appelle pendant la revue de presse, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais. Cette dynamique lui confère une respectabilité, une crédibilité technique longtemps inexistante aux yeux de l'opinion et entraîne le risque d'accélérer sa victoire. Il est ensuite illusoire de penser pouvoir influer sur une idéologie aussi radicale, l'exemple trumpiste de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 aux atteintes constantes à l'état de droit ne montre que le risque est réel qu'une accession au pouvoir du RN ne soit pas seulement une parenthèse mais bien une rupture. Dénoncer ne suffit pas, il faut proposer ni le déclin de notre pays, ni la tentation du pire, à travers le choix d'aventures politiques qui ont l'attirance de l'inédit, ne sont des fatalités. Nous ne sommes condamnés ni à la paralysie de l'action publique, ni à l'extrémisme de solutions démagogiques et funestes. Nos problèmes sont certes colossaux, donc c'est le patron de la Maïf qui parle, hein, mais nos ressources sont immenses, à commencer par la volonté de la majorité d'entre nous de relever des défis tous ensemble. De très nombreux dirigeants partagent d'ailleurs cet état d'esprit. Ce dont la France a besoin le plus besoin aujourd'hui, c'est de se réconcilier. L'entreprise peut y contribuer en agissant pour une vie collective apaisée, porteuse de sens, ouverte à la diversité, propice à un dialogue constructif. Je ne parle pas en théoricien, dit-il. À la Maïf, nous avons fait le pari que compétitivité et cohésion sociale ne s'opposent pas. Ce pari, nous le tenons. Le monde économique doit aussi s'accorder sur des propositions raisonnables, ni cycliques ni naïves, sur le partage de la valeur, sur une contribution juste à l'effort commun, sur la protection de notre souveraineté et sur le rythme de la transition écologique. Tous les dirigeants économiques savent qu'il n'y a pas d'autre issue à long terme. Pour trouver ce chemin, l'économie ne doit plus être appréhendée uniquement comme le champ de la confrontation d'intérêts antagonistes. Compétitivité, cohésion sociale, préservation des ressources ne s'opposent pas à long terme. La France ne s'en sortira pas sans développement économique, mais elle ne s'en sortira pas non plus sans justice sociale et sans effort de transition. Cet équilibre est la c'est intéressant, c'est un patron qui dit ça. Cet équilibre est la condition du développement futur de l'entreprise. Reste aux politiques l'obligation de considérer sérieusement ces options en privilégiant l'intérêt général sur les intérêts partisans afin de cesser de faire le lit des démagogues à force d'impuissance à réformer. Une année nous sépare d'une échéance historique. À mes pères qui doutent encore, qui pensent que rencontrer le RN est une prudence raisonnable, je dis ceci, l'histoire a besoin de notre clairvoyance et de notre résistance. Le temps est venu d'affirmer ses convictions et de préserver de toute compromission et d'œuvrer ensemble non pas au déclin de notre pays, mais à son rayonnement. Pascal Desmurger, directeur général de la MAIF. Voilà. Et je vous lis. Qui m'appelle en pleine revue de presse là ? Scandaleux, ça. Scandaleux, ça. Waouh. Ah oui, sympa, ouais. Excusez-moi, je lis mes petits messages urgents. Ok, ok. La MAIF, assureur militant, je crois que c'est leur slogan, c'est ça ? Du grain à moudre pour notre rapporteur de commission préféré. Après, quand un militant reproche à d'autres d'être militant, c'est un peu bizarre. Salut Cyril. Salut Archimiste. Je vous lis, je vous lis. Historiquement, c'est pas la première fois que les grandes entreprises se rapprochent de l'extrême droite, Samuel. Je vois à quelle période de l'histoire tu fais allusion. Tout à fait. Fabstar, l'auteur de l'article, est un PDG d'une société à mission. Il semble ignorer les responsabilités et intérêts des patrons qui sont obligés de rencontrer les politiques et pour défendre leurs intérêts. Est-ce que ces intérêts sont au-dessus de tout ? C'est la question qu'on peut poser, quoi. Salut Justin, je vois que ça prépare les concours aux écoles, là, force. C'est ce qu'ont fait les GAFAM aux États-Unis aujourd'hui aussi. Oui, il y avait des patrons de GAFAM qui étaient très critiques vis-à-vis de Trump et qui effectivement ont un petit peu mangé leur chapeau après l'élection pour son deuxième mandat, c'est vrai. Tout à fait, Ananas. Et d'ailleurs, pensez à tous ceux qui préparent les examens en ce moment, les examens ou des concours, parce qu'on rentre dans cette période-là. Je suis sûr que beaucoup sont concernés dans le chat. On vous dit merde, bien sûr, on vous dit plein de choses. Ouais. Et notamment ça, tout à fait. Allez, je vous emmène dans la lutte contre les fake news. D'ailleurs, je me rends compte que ma mise en page est totalement moche. Bougez pas, je vous fais ça bien. Hop. Hop. Il manquait un petit bout de la page. Courage à vous, je viens de passer le CAPES, ça va aller, vous inquiétez pas, me dit Sleepy Tomio. En ce moment, les concours de prépa scientifique, force à eux, me dit Gégé. Ah, c'est si tôt que ça ? Merde aux futurs collègues qui préparent le CAPES Histoire Géo, me dit Lombric. J'ai intégré l'an dernier. Bon courage à tous ceux qui préparent les concours. Vous allez y arriver, me dit Lucifer. Ah, parce qu'il y a des euros après, c'est ça. Alors, Mich-Dej nous rappelle que les concours, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avoir un plein de diesel en ce moment. En attente des résultats du concours de professeur des écoles, c'est aujourd'hui, je stresse, me dit Enela, on croise les doigts, je suis sûr que ça va bien se passer. C'est pas si tôt, les étudiants enchaînent 4 semaines de concours, puis les corrections, puis les euros. Oh la vache! Qu'est-ce que je suis content de que ce soit derrière moi tout ça. Mais force et bravo. Cyril, bon, eux, en fait, non, ils vont pas tous y arriver. C'est le problème d'un concours. Y a pas de place pour tout le monde. Cyril, t'arrêtes de nous niquer le moral, là, ou pas? On le sait, hein. C'est fou, ça. C'est fou, ça, quand même, hein. C'est dingue, hein. Bien sûr. Je rappelle que l'un des effets secondaires de la consommation de ce stream, c'est qu'il garantit 100% de réussite aux examens. Voilà. Donc, et ça, dans ta petite sortie là à l'instant dans le chat, ça c'est oublié ça. 100% des gens qui regardent ce stream réussissent leurs examens. Voilà. Point. Point. C'est pas un débat, c'est pas un... Voilà. Bon. C'est tout. Y compris les coloscopies. Tous les examens, donc, voilà. Allez. Et ceux qui quittent le stream les ratent. Non, quand même pas, on va pas. Non, à partir du moment où t'es passé. Même les éthylotests. Sugar, réel, j'étais au rattrapage en école d'ingé, l'arrivée de Sam sur Twitch a changé ma vie. Voilà. C'est tout. CQFD. Exactement. Ça sent la fake news. Bah, ça tombe bien. Justement, on y va, on en parle. Let's go. La deuxième guerre des réfugiés. Le titre comme ça est un peu mystérieux. De quoi veut parler la Croix? Voilà. C'est un dossier de la Croix qui nous dit que les réfugiés politiques, peuvent aussi être victimes de fake news. Voilà. Mais victimes, vous allez voir. Il y a des exemples qui sont hallucinants. Hallucinants. Ils ont fui Gaza. Ils ont fui Kaboul, Kiev, ou Téhéran pour retrouver la paix en France, mais une fois sur place, montage vidéo et pseudo-reportage les prennent pour cible. On se demande d'où ça vient. De nouvelles attaques menées par des agresseurs invisibles. Certains pas si invisibles que ça. Il y a un jeune homme là, militant d'extrême droite, qui attend son procès d'ailleurs. Lisons. D'abord, la première histoire est assez édifiante. Segré en Anjou, à l'heure des derniers murmures du jour. Ce 4 novembre 2025, Alam, Hossein, Kamal, sa fille Ibrahim s'assoient par terre en cercle à 2 pas de l'entrée du Leclerc. Les réfugiés afghans ont pris l'habitude de se poser ici en fin d'après-midi après leur course pour préparer leur encas. Sa blague en pachto, ça va être la langue je suppose, tout en sifflant un Red Bull, 4 d'entre eux prennent leur service dans la foulée. Après, ils enchaînent avec le boulot. Ils travaillent de nuit, de 19h à 4h du matin, dans une entreprise agroalimentaire du coin, à l'entretien des machines. La paix est modeste, la cadence soutenue, mais ils n'y trouvent rien à y redire. Ils sont rescapés des ténèbres. Ce sont des réfugiés afghans. En Afghanistan, ces trentenaires ont vécu sous la menace des talibans, dont la violence n'a jamais cessé ces 20 dernières années, quand bien même ils n'ont repris le pouvoir qu'en août 2021. Fuir était une question de survie. Alam a choisi d'émigrer en France pour la liberté et la fraternité, dit-il. Tout sourire malgré des cernes marquées. Hossein a traversé l'Iran, la Turquie, l'Europe en se cachant dans des conteneurs. Ici, c'est très bien, très très bien. Lance-t-il dans un français sommaire en levant le pouce. Après les routes hérissées d'épines de l'exil, place à la douleur angevine. Donc les mecs se réunissent avant d'aller bosser, quoi. Le 4 novembre 2025, pourtant, leur vie a obliqué. Jean-Eude Ghana. Alors Ghana, GA2NAT, hein. Pas comme le pays africain. Jeune militant d'extrême droite siégeant désormais au conseil municipal de Segré, donc c'est un élu. Les films à leur insu devant le supermarché, les accusant de traîner, de ne rien branler et d'être là tous les soirs. Donc on parle de gens qui en gros se réunissent avant d'aller bosser, quoi. Il poste la vidéo sur TikTok avec pour titre « Marre de vivre avec les cousins des talibans jusqu'au... » Donc cousin des talibans, jusqu'au fond de nos campagnes. Le film de 22 secondes se propage illico dans les milieux identitaires et même au-delà. Alam est prévenu par un collègue tombé dessus en scrollant sur les réseaux sociaux. Et là, dit-il, on a eu un gros stress, très très gros, dit-il en faisant les yeux ronds, passé pour un assisté, qui plus est, islamiste. Ils ne pouvaient imaginer pire. Pour eux, c'était la panique. Au début, c'est bien simple, ils n'en dormaient plus, raconte Bertrand Even, bénévole ayant dispensé des cours de français à ces jeunes hommes. C'est vers lui que spontanément les jeunes Afghans se sont tournés en découvrant la vidéo. Les jours suivants, Hossein a décidé de ne plus sortir en même temps que son épouse, voilà, et leur petit d'un an et demi, histoire de ne pas les exposer. Et si des habitants du coin s'en prenaient aux siens, il est présenté tout à la fois comme un parasite et un fou d'Allah. La peur s'est ajoutée l'affront, celui d'être associé aux talibans. Une gifle encore plus forte pour Kamal, qui est aussi sur la vidéo, qui a perdu des proches exécutés par les nouveaux maîtres de Kaboul. 4 mois plus tard, l'anxiété reste palpable. Alam, Hossein, les autres redoutent désormais le procès du militant d'extrême droite le 6 mai prochain, puisque l'élu a été poursuivi. Jean-Eude Ghana doit en effet comparaître devant le tribunal correctionnel d'Angers à la demande du procureur pour incitation à la haine. Le prévenu que nous avons contacté assume l'expression « ne rien branler », décrivant le petit groupe d'Afghans comme étant assis des heures sur le bitume. Il persiste par ailleurs à les considérer comme des cousins des talibans, se fondant sur de supposées études sur les mariages intrafamiliaux en Afghanistan. Ne me demandez pas de vous expliquer, je pense que ça va être compliqué. C'est dans la Croix, l'article Kenney. La Ligue des droits de l'homme s'est constituée partie civile. Sauf volte-face, les Afghans, eux, ne devraient pas venir témoigner à la barre. La peur, toujours. Excusez-moi, je regarde un truc. La peur, toujours. Comment pourraient-ils envisager de venir sereinement ? Leur simple présence devant un supermarché a entraîné cette infâme injure raciste avec un écho national et international, soupire leur avocat. La vidéo reste accessible en ligne. Le militant identitaire a été sommé de la retirer de TikTok, mais avant d'obtempérer, il a appelé ses abonnés à la reposter. Décrire le réel est interdit, puisque la vérité dérange, je vous demande de la faire tourner au maximum. La viralité a joué à plein, accentuant encore la vulnérabilité des Afghans. Le film a été vu plus de 2 millions de fois et a même franchi les frontières. La vidéo a été visionnée jusqu'en Afghanistan. Ma famille l'a vue, elle ne comprend pas, elle me demande ce que j'ai fait de mal, demande Hossein. Idem pour Alam, considéré jusque-là comme des modèles de réussite par leurs proches. Ils passent désormais pour des voyous. Et après l'enfer, expérimentent une nouvelle forme d'insécurité sur une terre qu'ils n'imaginaient paisible. Ça cause les fake news. Salut Duduche. Dématérialisé, viral, parfois sophistiqué, les fausses informations trouvent avec les réfugiés des instruments de choix pour dénoncer les prétendus excès de l'immigration. Eux ne peuvent se défendre, ils ne connaissent pas le droit, maîtrisent encore moins les rouages de notre système administratif, pire, craignant d'être expulsés, ils n'osent pas faire de vagues depuis leur siège éjectable. Leur lot, subir seul ou avec leurs proches en silence, une manière de se protéger. Après les violences subies, beaucoup de réfugiés expriment le désir de se faire le plus petit possible, de ne pas déranger afin de ne pas s'exposer à des soucis avec les autorités, explique Lucia Blake, qui est une psychologue clinicienne. Une réaction également guidée par une crainte profonde, celui d'être perçu comme fautif, de ne pas être cru. Cette peur, certains l'ont déjà éprouvée lors de leur demande d'asile, lorsqu'il leur a fallu démontrer ce qu'ils avaient enduré dans leur pays. Chez certains d'entre eux, cela redouble le traumatisme. En 2024, c'est au détriment de quelques 190... Alors ça, c'est une première affaire, mais La Croix, en fait, c'est un gros dossier de plusieurs pages. La Croix liste toute une série d'exemples comme ça. Là, c'est 2024, c'est au détriment de quelques 190 exilés de l'Est de la République démocratique du Congo, de Somalie, du Burundi et du Rwanda, que les fake news démontrent leur propension à s'attaquer aux plus fragiles. Dans la soirée du 26 février 2024, cette année-là, l'association Emmaüs Solidarité loge ces réfugiés qui avaient obtenu l'asile à Mayotte dans une résidence étudiante mise à disposition par l'État, dans le parc du château de Grignon. Alors, mettez-vous bien en tête ce mot de château parce qu'il va être très important pour la suite. Je pense que vous avez déjà deviné la suite. Ayant longtemps hébergé l'école AgroParisTech, le jour même, un poste du président du RN, Jordan Bardella, ironie sur les réseaux sociaux, entrez clandestinement à Mayotte, vous pourrez être rapatrié en métropole et logé dans un château du XVIIe siècle. Le lendemain, c'est une autre figure de l'extrême droite qui réagit sur X, Marion Maréchal Le Pen, qui dénonce la présence de près de 300 migrants africains tout droit arrivés de Mayotte dans un bijou de notre patrimoine et de notre histoire. Nos châteaux sont aujourd'hui transformés en camps de migrants, s'indigne-t-elle. Le chiffre est gonflé, donc on a augmenté un petit peu le nombre de migrants. Le terme de migrant remplace celui de réfugié, hein, statut attribué au terme d'une procédure juridique. Les chambres de l'école sont confondues avec le château, mais encore une fois, qu'importe les fake news que Marion Maréchal Le Pen répétera le lendemain sur sa chaîne YouTube se propagent sur les réseaux. Voilà. Le mal est fait. Et là, tu peux débunker ce que tu veux. C'est parti. Il y a des gens qui vont prendre tout ça premier degré. Et le 3 mars, c'est pas terminé, des militants d'extrême droite débarquent à Grignon, lançant des fumigènes, entonnant des chants racistes dans le parc du domaine. Les réfugiés ont eu peur que les militants s'attaquent à eux, se souvient Lofty Wanzar, directeur d'Emmaüs Solidarité. Et alors que leur séjour devait durer quelques mois, il est écourté par l'État. Pour éviter tout nouveau débordement, les intéressés sont relogés ailleurs. C'est aussi le choix que feront les institutions un an et demi plus tard à, alors une autre histoire, à Charenton-le-Pont, à la fin de l'été dernier. Une rumeur colporte que des Gazaouis, donc des habitants de Gaza, sont hébergés dans les locaux même de la mairie de cette petite ville du Val-de-Marne. Un supposé traitement de faveur dénoncé le 12 septembre dans un bandeau sur CNews. À Charenton-le-Pont, dit le bandeau, des habitants s'opposent à l'accueil de réfugiés gazaouis logés dans l'hôtel de ville, y affirme la chaîne, qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc au journal La Croix, les réseaux sociaux s'emballent, comme toujours. Le maire dément, dénonçant une manipulation politique. Les Palestiniens n'ont en effet jamais été accueillis à la mairie. La réalité, la voici. 5 Gazaouis, 2 adultes, 3 enfants, ont bénéficié d'une évacuation sanitaire organisée par le ministère des Affaires étrangères. L'association France Horizon, qui gère leur prise en charge dans l'Hexagone, leur a trouvé un hébergement à Charenton pour qu'ils soient proches de 2 grands hôpitaux pédiatriques de l'Est parisien. Quant aux habitants, les fameux habitants scandalisés de Charenton-le-Pont, évoqués par la chaîne d'information que je viens d'évoquer. Quant aux habitants scandalisés par leur présence, on n'en trouve aucune trace. La fronde émane en réalité d'une certaine amicale des commerçants et riverains du Val-de-Marne. Et la suite, c'est quoi? C'est que personne ne connaît cette assoce à Charenton. Nous n'avions jamais entendu parler de cette structure avant, assure une source au cabinet du maire, ni après d'ailleurs. Tout porte à croire qu'elle a été créée pour l'occasion. Qu'importe, les institutions préfèrent éteindre l'incendie, protéger les exilés en les exfiltrant au plus vite. Encore une fois, on a bougé ces gens. En 48 heures, ils avaient quitté la ville, explique la mairie. Destination, une localité tenue secrète afin de garantir leur sécurité et éviter toute nouvelle controverse. La répétition pour eux d'un scénario déjà vécu et de l'angoisse qui a pu l'accompagner, puisqu'on parle de gens qui vivaient à Gaza. En cas d'évacuation précipitée, le pays d'accueil n'est plus perçu comme le refuge qu'il était censé être. Être déplacé dans l'urgence réactive, parfois le traumatisme de l'exil, de la fuite du pays natal, qui s'est parfois décidé en quelques heures, décrypte la psychologue Lucia Blais. Voilà. Bon, alors des histoires comme ça, des exemples comme ça, vous en avez plusieurs, le dossier fait plusieurs pages dans La Croix. Vous irez les lire si vous le souhaitez, hein, c'est pages 5, 6, 7, 8, 9 dans La Croix. Et là, on est sur la question de l'immigration, mais globalement, on voit aussi ce processus de comment une fake news se fabrique, comment elle se diffuse, hein, comment souvent elle reste impunie, hein, comment elle est impossible à supprimer, hein, et que, alors évidemment, bah, parfois il y a des gens qui font du décryptage de fake news et qui vont en parler ici dans La Croix, mais combien deux Français et deux Françaises vont lire ce dossier dans La Croix, comparé aux milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, parfois millions de personnes qui ont vu ces affirmations sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne d'info qui était évoquée tout à l'heure. Voilà. Alors, on pourrait estimer que ce combat est perdu d'avance, que c'est un peu David contre Goliath. Il est très, les moyens nécessaires pour débunker une fausse information et pour faire comprendre au grand public que c'était une fausse information sont gigantesques par rapport à l'énergie utilisée pour créer cette fausse information. Moi, je pense qu'il faut rester quand même mobilisé et optimiste et se dire qu'il y a des outils. Hein. Ah, ce que dit Defecator est très intéressant dans le chat, je vais vous le dire dans un instant. Il y a des outils, il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des médias, il y a des citoyens qui peuvent aussi devenir de plus en plus prudents par rapport aux informations qu'ils perçoivent. Et il y a aussi la justice, puisqu'on voit que parfois, pas assez peut-être, mais parfois aussi ça part en justice. Quoi. Defecator vient d'écrire dans le chat. Très bon article sur les mécanismes et la manière dont se diffusent ces fake news. Defecator, dont c'est l'un des travaux sur Internet, parce qu'il joue aussi aux jeux vidéo et sur YouTube et sur Twitch, de lutter contre les fake news et qui est avec nous, et qui dit très bon article sur les mécanismes et la manière dont se diffusent ces fakes. Le problème, c'est qu'à cette échelle, il est difficile de lutter. La seule solution, c'est le pré-bunking. Il faut que les gens apprennent à repérer le mécanisme lui-même. Voilà. Et c'est pour ça que les échanges sur le sujet, la pédagogie sur le sujet est importante. Pardon d'y revenir, mais du coup c'est aussi une illustration de la lutte contre le fake news. Vous savez que le monsieur Charles Alonque, le rapporteur de la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, a proféré de nombreuses fausses informations et fake news lors des auditions et sur Internet. Voilà. Il a été interpellé par plusieurs auditionnés. Et par exemple, la fameuse affirmation selon laquelle Media One aurait organisé une soirée pour fêter la réélection de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, cette information a été débunkée. C'est une fake news. Et pourtant, le tweet de monsieur Alonque est toujours en ligne. Voilà, et il refuse de l'enlever. En disant, donc l'argument c'est, puisqu'il a donné une interview à ce propos récemment, en disant, quelqu'un sous serment dans ma commission a dit que c'était vrai, donc je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi une information est vraie quand elle est dite par quelqu'un sous serment et qu'on la laisse comme ça. Si deux jours après, une autre personne sous serment dit que c'est faux, voilà. Donc, je ne sais pas comment il arrive à trier ça dans sa tête, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un exemple de comment ça... À un moment, quand tu répètes un truc, est-ce que tu le dis, que tu le redis, il peut y avoir tout le débunkage que tu veux. Hein, si après, tu ne veux pas t'inscrire dans cette démarche de vérité et que tu refuses de reconnaître une erreur, par exemple, la seule voie après, c'est la voie judiciaire. C'est la seule voie judiciaire. Et pour être optimiste, je crois que notre société est doucement en train de se mettre en marche. Moi, j'ai été très pessimiste sur ces sujets. Je commence à être optimiste. Je trouve qu'il commence à y avoir des motifs d'espoir sur le sujet. J'ai l'impression que ça part de plus en plus en justice. J'ai l'impression que les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à ces questions. Hein, maintenant, à l'école, on parle de plus en plus d'éducation aux médias. Ça, c'est complètement nouveau. Il y a des choses positives. Voilà. Donc, c'est un combat qui va être très, très long. Voilà. Mais il n'est pas perdu d'avance. Quoi. Voilà. Il n'est pas perdu d'avance. Jolie citation de Jonathan Swift, citée par Pépère Dudu, « Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant. » Merci à toi. Donc soyons optimistes sur le sujet, mais par contre ça va être beaucoup de travail. Ouais. Et c'est un travail au quotidien qu'on peut faire pour partie, pour toute petite partie, à mon modeste niveau dans cette revue de presse le matin. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Mais prenons l'escalier alors. Prenons l'escalier. Et en plus, c'est bien pour notre cœur. Cette transition, cette masterclass. C'est bien pour notre cœur et nous allons parler d'amour et nous allons parler de mariage. Et on va mettre ça pour nos amis de YouTube. 3, 4. Amis de YouTube. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. Ça fait 5 ans qu'on lit les journaux tous les matins, qu'on se penche sur l'actu et on voulait partager cette info avec vous absolument ce matin, ce mardi matin. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour, ça parle de love, ça parle de mariage. Et l'article est un peu étonnant. C'est un article du Figaro qui nous dit, je vous montre ça tout de suite, que le mariage protège contre le cancer. Ou plutôt s'interroge. Pour être tout à fait précis, est-ce que le mariage protège contre le cancer ? Vous allez voir, il y a des trucs un peu étonnants. Let's go. Est-ce que le mariage protège du cancer ? Je vous montre l'article, il est ici. Une étude scientifique américaine met en lumière un lien étroit entre statut conjugal, conditions de vie et risque de développer la maladie. Attendez les infos et après parlons-en, c'est un article qui est signé par Anne Prigent dans le Fig. Et si vivre seul augmentait le risque de cancer ? C'est ce que suggère une étude. Il y en a qui préchotent. Vous allez trop vite. C'est ce que suggère une étude américaine publiée le 8 avril en épluchant des données épidémiologiques sur 7 ans. Les auteurs montrent que les adultes n'ayant jamais été mariés développent des tumeurs bien plus souvent que ceux qui sont ou ont été mariés. Et ce, pour la quasi-totalité des types de cancers étudiés. Là, tu as envie d'arrêter la lecture de l'article et tu te dis, let's go, je vais me marier, quoi. Non, continuons. Parce que, évidemment, on ne va pas mettre un signe égal entre mariage égal moins de cancer. C'est plus compliqué que ça. Pour aboutir à ces résultats publiés dans la revue Cancer Research Communications, les épidémiologistes du Sylvester Comprehensive Cancer Center de l'Université de Miami ont exploité les données de 12 États américains, recensant plus de 4 millions de cancers diagnostiqués entre 2015 et 2022 au sein d'une population dépassant les 100 millions d'adultes. Bon, déjà, la base d'études, elle est giga, quoi. Près d'un participant sur 5 n'avait jamais été marié. Donc là, il parle bien du mariage hein, et pas du concubinage, puisque vous êtes plusieurs à me poser la question, j'ai l'impression qu'il parle vraiment du mariage. Les chercheurs ont ensuite comparé les taux d'incidence selon le statut matrimonial en tenant compte du sexe, de l'âge et de l'origine ethnique. Les résultats sont clairs, les hommes jamais mariés, présente environ 70% de risque supplémentaire de développer un cancer par rapport aux hommes mariés ou ayant été mariés. Bordel. Pardon, j'ai envie de le dire, bordel de merde. Je relis. Les hommes jamais mariés présentent environ 70% de risque supplémentaire de développer un cancer par rapport aux hommes mariés ou ayant été mariés. Chez les femmes, l'excès de risque atteint 85%. Nom de Dieu ! Les écarts sont particulièrement marqués pour les cancers dits évitables liés au tabac, à l'alcool ou aux infections. Et on commence à comprendre pourquoi. Hashtag hygiène de vie. Bah oui. Les hommes célibataires ont ainsi près de 5 fois plus de risque de cancer de l'anus, mesdames et messieurs. Et les femmes près de 3 fois plus de risque du cancer du col de l'utérus. Deux cancers étroitement associés au papillomavirus humain, HPV. Corrélation n'est pas causalité. Bien sûr, on va y venir. En revanche, les différences s'estompent pour les cancers bénéficiant de programmes de dépistage structurés, ceux du sein, de la prostate, de la thyroïde. Ces résultats suggèrent que, voilà, des facteurs sociaux, comme le statut marital, peuvent constituer d'importants indicateurs du risque de cancer à l'échelle de la population, dit le professeur Paolo Pinheiro, qui est le principal auteur de l'étude. Que les célibataires se rassurent, si vous n'êtes pas marié dans le chat. Personne ne prétend que le mariage protège directement du cancer. Bien sûr. Ce n'est évidemment pas le mariage en lui-même qui agit mécaniquement contre la maladie, ça n'aurait aucun sens. Il s'agit avant tout d'un marqueur de comportement et de conditions de vie, dit Gwen Méviel, qui est épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy en France, à Villejuif. Voilà. C'est le mode de vie, bien sûr. Ces résultats s'inscrivent en réalité dans le champ bien banalisé des déterminants sociaux de la santé. Il existe un lien causal, mais il est indirect. Le fait d'être en couple donne accès à des ressources, à des comportements qui favorisent un meilleur état de santé, explique le professeur Cyril Delpierre. Travaille à l'INSERM. Alors, évidemment, le sujet peut prêter à sourire. Hein. L'exposition aux beaux-parents referait monter les risques, me dit Astier Lavista. Ça dépend des beaux-parents. Est-ce que si tu es marié plusieurs fois, ça réduit les risques d'autant, dit Pingouin Positif? A priori, non. Lucie Liberté dit, et on finance de telles études? Eh oui, avec de l'argent public. Non, non, c'est américain, t'inquiète. Pas besoin de créer une commission à l'Assemblée pour ça. Et on continue. Ce n'est donc pas le mariage qui protège biologiquement du cancer, mais ce qu'il représente statistiquement. Un meilleur niveau de vie, une alimentation de meilleure qualité, des comportements globalement plus favorables à la santé. On sait par exemple que les hommes en couple boivent moins. Les hommes en couple boivent moins et fument moins. Voilà. Illustre le chercheur, à quoi s'ajoute une attention accrue à la santé quand on est en couple. Donc là, ils disent plus mariés, ils disent en couple. Les personnes en couple ont davantage tendance à consulter tôt, à se faire dépister, à suivre leur traitement. Le conjoint peut encourager à prendre un symptôme au sérieux, à ne pas remettre un rendez-vous médical. Il y a une vigilance réciproque qui joue, observe Gwen Menviel. Voilà. Ouais, il a cause demain, Lafarge. Ouais. Je vous lis, hein. Chez les femmes, certains résultats méritent un éclairage particulier. Les femmes jamais mariées ont en moyenne moins d'enfants. Or, la maternité est associée à un effet protecteur concernant plusieurs cancers gynécologiques. Pour le cancer du sein, en revanche, l'écart selon le statut matrimonial est plus faible. Probablement que c'est lié à l'existence d'un dépistage organisé, quel que soit le statut marital. Ouais. Les femmes reçoivent des invitations à réaliser une mammographie. Le système de soins peut aussi contrebalancer partiellement les inégalités liées aux conditions de vie. Nukia me dit dans le chat, je m'empresse de dire à mon copain que je lui sauve la vie. Et réciproquement. Voilà. Voilà pour l'essentiel. Maintenant, je vous lis. Si tu fumes pas, tu bois pas, tu fais pas la fête, me dit Momstone, tu vis pas forcément plus longtemps, mais la vie doit paraître plus longue. Non, non, objectivement, non. Ça réduit le risque de cancer, dit évitable quand même. Et qu'en est-il de la prise de poids en couple? Là, j'avoue qu'il y a un vrai sujet. Rella, Samuel, épouse-moi, trop tard. Mariette. Lisons, je suis sûr que vous êtes très inspiré. En tant que célibataire, zéro alcool ou alors exceptionnellement un nightclub. Bien sûr. Les hommes en couple boivent moins, normal me dit Goodies, ils n'ont pas le droit d'aller au bar après le boulot avec les collègues. Je connais pas mal de pères, me dit Sleepy Tomio, pour qui c'est pas vrai qu'ils boivent moins. Moi, je connais des hommes, me dit Cyril, en couple qui boivent plus, soit pour oublier, c'est du propre, voilà, soit parce que leur conjoint ou conjointe boit aussi. Il y a quand même un léger souci de causalité, me dit Airwave, c'est pas le mariage qui empêche de tomber dans l'alcoolisme, c'est plutôt l'alcoolisme qui empêche de trouver une femme. Ouh. Attendez, je descends en bas du chat. Encore un article pour inciter à la reproduction et un repeuplement, dit Asti. Mais faites des gosses, bordel! Les couples libertins qui vont être immortels. Comment ça? Quelle logique? Comment ça, le couple libertin? À quel moment le libertinage, c'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ou alors si, parce que tu montres plus ton corps à plus de gens, et du coup, si, peut-être pour détecter une petite grosseur, et t'as plus de... t'as plus de Père Dieu qui se pose sur ton corps, c'est ça que tu veux dire, c'est ça l'analyse. En fait, la question que tu poses, Sugar, parce que je vais citer quand même l'auteur de cette remarque, c'est est-ce que la partouze protège du cancer, c'est ça? J'ai pas l'info. Ça me semble pas tout à fait lié à cette étude. Si t'es en trouble, est-ce que c'est cheaté? Je n'ai pas la réponse à cette question. Alors oui, l'étude est peut-être biaisée, comme le dit Lulu Wake. Peut-être aussi que les gens ne veulent pas se marier avec quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie. Ah ah, ah ah. Ah ah. C'est vrai, ça c'est intéressant, ça, cette remarque. Pas con, voilà, comme le dit Sanou, pas con. Alors Buzz Mocker me dit plus de chances de tomber sur un médecin en étant libertin. Ah oui, je vois ce que tu veux dire statistiquement, oui. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est plutôt que d'aller en club échangiste, tu peux aller chez le médecin aussi. Si tu comptes sur l'échangisme ou le libertinage pour tomber sur un médecin un peu par hasard, j'entends l'argument, hein, mais sinon tu vas sur Doctolib ou je sais pas quoi, là, puis tu prends rendez-vous chez ton médecin, quoi. C'est peut-être plus simple, peut-être. Moi, je propose un petit coup de carte vitale. Ça te coûtera moins cher. Je suppose que tu n'as pas à payer l'entrée, enfin, tout ça. Là. Allez, un ou deux commentaires et puis je vais aller préparer mon émission de ce soir. Je suis surpris, je pensais que dans un couple, on pouvait s'entraîner chacun dans ses travers, alcool et tabac. Bah ça dépend. Ça dépend du conjoint. Par exemple, tiens, puisque je suis sur ma chaîne, je vais parler de moi, let's go. Quand j'ai rencontré mon amoureuse Hélène, il y a 17 ans, il y a Red Bull qui dit « Je crush sur ma pharmacienne, il faut que je me lance vraiment. » Bah attends, amour, mariage avec une pharmacienne, let's go. Donc, quand j'ai rencontré mon épouse, je buvais encore un peu. Voilà. Je suis passé de gros buveur, on peut dire alcoolique, quand j'étais un jeune fêtard pendant des années, breton, à buveur régulier, on va dire le petit verre de vin, la petite bière, tous les jours, en gros. Enfin, le petit plaisir, quoi. Le soir après le boulot. Et quand j'ai rencontré mon amoureuse, il se trouve que Hélène ne buvait pas. Voilà. Bah, progressivement, le petit verre de rouge ou la petite bière le soir, bah, il s'est arrêté parce que c'était pas un moment de partage. T'es en dîner avec ton amoureuse tous les soirs, c'est les joies du couple. Bon, bah, au début, tu prends ton verre de rouge tout seul, ta bière tout seul, puis à un moment, ben, t'arrêtes, quoi. Enfin, c'est assez naturel, quoi. Après, je me pose la question, si Hélène, si elle avait bu une bouteille de rouge tous les soirs, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que, tu vois, peut-être que j'aurais basculé du côté rouge de la force. Et la cigarette, c'est pareil. Quand j'ai rencontré Hélène, je fumais encore une clope par jour, je dirais, enfin, une petite clope de temps en temps. Et eh bien, Hélène ne fumait pas. Ben, c'est pareil. Donc oui, ça peut avoir une influence sur l'hygiène de vie. Ah, ça ne marche pas toujours. Ma sœur s'est remise à fumer à cause de son mec et s'est mise à prendre une à deux bières tous les soirs. Oui, c'est vrai, ça ne marche pas tous les coups. Une bouteille, ça va. Par jour ? Non, ça va pas. Non. Non, ça c'était avant, c'est ce qu'on nous disait dans les années 60 ça, ou 50 pour nous faire boire du vin. Non. Ah non, faut pas, non. Tu dois ton 3h13 à Hélène ? Non, je connaissais pas Hélène à l'époque. Non. Mais à l'époque, j'étais jeune. « Perso, c'est l'inverse. Quand mes parents se sont séparés, ils ont tous les deux arrêté de fumer. Bon. Je suis content de cet échange parce qu'on voit que vous venez quand même, comment dire, éclairer cet article et cette étude. Et peut-être qu'il faut prendre avec prudence cette affirmation. On voit que ça dépend de beaucoup de critères quand même et d'inconnus à la question de savoir si le mariage protège du cancer. Voilà. Donc, merci les amis de Twitch. Merci les amis de YouTube d'avoir écouté cette info jusqu'au bout avec nous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, que sais-je, et à follow même la chaîne YouTube puisque on est en train de devenir YouTubeur ici. Je vous rappelle que la chaîne gérée par l'ami Mathieu, peut-être ici présent ce matin, elle vient de passer les 200 000 abonnés. 200 000 abonnés. Voilà. Ça YouTube ici, c'est la folie. Merci beaucoup. Merci Lego pour le prime. Merci Matou. Merci à mon slip. Voilà. Et le Twitch vous dit merci YouTube. Incroyable. Bon, regardez-moi ça. Ça, c'est important. C'est ce soir. Des mois de travail, des mois de préparation, un live de fou. Il y a même un invité surprise. Ou une invitée surprise, on ne sait pas qui sera là ce soir. Une dinguerie, c'est réponse cache 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y en a déjà eu un. Celui-ci sera encore mieux. Des invités tout shiny, des questions de fou, des petits jeux, du basket, des fléchettes. Un présentateur au top de sa forme, qui n'a pas streamé hier soir pour être à 200%, 2000%. Voilà. Ça lance à 20h. Venez nombreux, on va se fondre la gueule. C'est quiz, culture générale, question de tunas, on va se fondre la gueule. Voilà. Ok ? Voilà. Et puis sinon, on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Ça me fait plaisir qu'ils viennent tous là, les Domingo, les Kevin Tran, les Marie, les Joy Phoenix, les Baguera, les Charles à l'oncle. Merde. Non je crois que je viens de leak l'invité surprise de ce soir. Bon, vous verrez bien à 20h. Voilà. S'il y a un invité surprise, vous le découvrirez à 20h sur cette chaîne. Merde. Bon. Qui est... C'est petit leak. La dinguerie que ce serait. Mais non, mais ça peut pas être lui. Mais non. L'émission, c'est réponse cache, c'est pas mensonge cache. Alors, qui est en live, qu'on fasse un petit raid? Qui est en live? Qui est en live ce soir, ce matin? Eh oui, toujours. Ah!
Thérapeutique des audiences pour certaines victimes.
C'est quoi ça? Oh, c'est intéressant. Je regarde. Hein. Ok. Je regarde qui est en live. Et après, je vous regarde aussi. Hein. Il y a aussi des streamers et des streameuses que je follow depuis pas longtemps. Je me les mets de côté, en fait, pour les raids. Et c'est, tu vois, et c'est ça que je regarde parfois aussi. Il y a des envies de l'autre côté? Comment ça, citron violet qui fait Osaka à vélo? Quoi? Vous voulez qu'on aille au Japon? Il a un vélo, le chouchou? C'est un Français qui vit au Japon. Qu'on aime beaucoup ici. Il est en vélo? Mais ça roule à gauche au Japon? Qu'est-ce qu'il fait? Ça roule à gauche au Japon? C'est la nuit. Ça roule à gauche? Oh, je me rappelais plus. Il est en train de faire quoi? Tokyo quoi? Tokyo Osaka en... Ok, c'est parti. Eh ben on y va. En plus, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Citron violet. Par contre, ça vote à droite. Et Rollgum nous dit, par contre, ça vote à droite. C'est pas faux. C'est pas faux. Excellent. Elle est très bonne. Allez, les amis. Je prépare le raid. Je coupe la caméra parce que vous savez que parfois, il y a des accidents ici. Voilà. Et hop. Monody, on l'a déjà. On l'arrête pas de le raid. Monody, oh là, j'adore Monody. Je coupe. À ce soir. Je compte sur vous. Hein. 20h, les pruneaux. Là, il peut rien se passer là. Hop, là, c'est voilà. On part au Japon. J'espère qu'il va pas avoir d'accident. Hein. Ne le distrayez pas. Hein. Voilà. Tokyo Osaka à vélo, jour 4. C'est son quatrième jour. C'est incroyable. C'est fou, hein. À ce soir, les pruneaux. Bisous.